Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Nous sommes le lundi 2 mars 2026. Des explosions entendues au petit matin, un mort à Bahreïn dans une frappe iranienne. Des explosions entendues à Doha, au Qatar, à Abu Dhabi, à Jérusalem. Israël qui, de son côté, annonce frapper le Liban. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans le chaos du Moyen-Orient. La guerre qui pourrait durer plus d'un mois. Voici l'annonce de la nuit de Donald Trump. Dans 10 minutes, nous serons en direct avec une franco-iranienne pleine d'espoir, vous allez l'entendre après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ce week-end. Nous ferons aussi un point sur la situation militaire avec le général Dominique Trinquant. Et puis vous, au standard d'RMC, vous habitez peut-être la région, vous êtes coincé sur place, vous êtes en vacances ou vous y vivez, vous avez de la famille peut-être sur place aux Émirats, en Israël, au Liban. Est-ce que la situation vous inquiète? Est-ce que vous craignez que ça touche directement la France? Je vous précise également que le niveau de sécurité en France a été élevé également. C'est l'annonce du ministère de l'Intérieur. Vous nous racontez tout au 32-16, vous réagissez. On vous attend aussi sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424 à 8h30. C'est le spécialiste des conflits armés, Alain Boer, qui fera le point avec moi sur RMC et BFM TV. Il est 6h59, dans un instant le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo, Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Apolline.
Du soleil pour presque tout le monde.
Effectivement, un temps très sec, très ensoleillé sur tout le pays, à une exception près, le pourtour méditerranéen, où là vous aurez des nuages et des averses entre Languedoc, Cévennes, Provence et Corse. Et puis un petit voile de nuages s'installe aussi entre le sud-ouest, les régions centrales et la Normandie. À noter le vent d'autant qui souffle et qui se renforce jusqu'à 80 km/h en rafale sur la plaine toulousaine notamment. Les températures un peu fraîches ce matin dans l'est, 0 degré à Metz, 1 à Strasbourg, mais une très grande douceur partout cet après-midi, température digne d'un mois d'avril, avec souvent entre 15 et 18 degrés, 17 à Paris et à Strasbourg, et jusqu'à 20 degrés à Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC. Très bon lundi à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Au troisième jour du conflit iranien, les pays du Golfe encore ciblés par Téhéran tôt ce matin. Le conflit s'étend et se propage à toute la région avec des échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël. Nous irons à Jérusalem dans ce journal. Nous irons aussi aux États-Unis avec Donald Trump qui promet de venger les trois militaires américains tués dans l'opération. Le président américain qui tente de justifier ces frappes, et vous entendrez ces Iraniens en France inquiets pour leurs proches restés en Iran.
L'Iran reprend ses frappes ce matin au Moyen-Orient.
Des explosions entendues très tôt à Doha, à Dubaï, à Manama. Une personne est morte à Bahreïn, portant à 5 au moins le nombre de victimes dans les pays du Golfe depuis samedi matin. Et les raids américano-israéliens menés sur l'Iran, un conflit qui se propage, je vous le disais, désormais au Liban, ciblé cette nuit par l'armée israélienne qui a poursuivi ses frappes au-delà de Téhéran, appelant les habitants du sud-Liban à fuir, promettant d'intensifier ses frappes en réplique aux tirs du Hezbollah libanais qui ont visé Israël. Sur place en direct ce matin, Stéphane Amar, correspondant RMC à Jérusalem, où des explosions ont été entendues ce matin.
Oui, après une nuit relativement calme, Jérusalem s'est réveillée ce matin au son des sirènes. Il s'agit déjà de la deuxième alerte depuis ce matin. Nous nous sommes donc rendus aux abris. Pour l'instant, aucun dégât majeur n'est signalé, mais la ville reste extrêmement calme. Les écoles sont fermées. Les habitants sont invités à rester chez eux et à travailler à distance. Seuls les commerces alimentaires restent ouverts. Un nouveau front a été ouvert au nord du pays, où l'on est en état d'alerte avec le Hezbollah qui semble rentrer dans cette confrontation.
Une déclaration conjointe avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, la France a appelé l'Iran à mettre fin à ces attaques inconsidérées. Une réunion va se tenir au Quai d'Orsay ce matin pour évoquer le sort des ressortissants français dans les pays du Golfe ciblés par l'Iran. C'est une priorité, dit Emmanuel Macron en marche d'un deuxième conseil de sécurité hier soir. Et c'est depuis la base navale de l'île Longue à Brest que le chef de l'État va prononcer cet après-midi son discours sur la dissuasion nucléaire. Prévu de longue date, cette prise de parole est encore plus attendue dans le contexte international.
Et c'est justement dans ce contexte que Donald Trump a aussi une nouvelle fois pris la parole hier soir.
Et on va retrouver Antoine Lard. Vous êtes le correspondant RMC à Washington, Antoine, allocution très courte du président américain qui a tenté de justifier dans une vidéo sur son réseau social l'opération américaine en Iran.
Écoutez, d'abord, Donald Trump cherche à convaincre l'opinion américaine. Il sait que cette guerre est impopulaire, y compris dans son propre camp. Dans un sondage, on voit que 27% des Américains seulement soutiennent les frappes, et ce soutien déjà très faible pourrait s'éroder encore davantage si les États-Unis subissent des pertes supplémentaires. Il y a déjà eu 3 morts côté américain. Trump a mis très longtemps à rendre hommage à ses soldats tués dans une frappe iranienne. Il finit par saluer leur sacrifice au service d'une cause noble. Trump, par ailleurs, commence à donner un horizon à ce conflit. L'opération sera terminée au plus tard d'ici 4 semaines, dit-il. Clairement, il ne veut pas d'un conflit qui s'enlise, d'un nouveau bourbier. Et c'est dans ce contexte qu'il s'adresse aussi aux Iraniens, aux gardiens de la Révolution en particulier. Il leur demande de déposer les armes en échange d'une immunité, faute de quoi vous connaîtrez une mort certaine, assure le président américain. Une façon, il l'espère, d'accélérer la chute définitive du régime.
Des propositions de négociation rejetées ce matin par le régime iranien qui accuse Donald Trump de plonger la région dans le chaos avec ses rêves illusoires. Le président américain qui dit au New York Times avoir 3 très bons candidats pour diriger l'Iran. Le pays qui se prépare à la succession d'Ali Khamenei, tué dans les frappes américano-israéliennes ce week-end avec une 40aine d'autres hauts membres du régime iranien. La chute de l'ayatollah célébrée dans plusieurs villes du monde hier, comme à Paris où la diaspora iranienne s'est rassemblée. 4000 personnes ont manifesté, non sans inquiétude pour la suite et pour leurs proches. Restez en Iran. Caroline Renaud était à leur côté pour RMC.
Au milieu des chants à la gloire de l'Iran, Mina relie le dernier message reçu de sa cousine. C'était peu de temps après la confirmation de la mort d'Ali Khamenei.
À Téhéran, les gens sont en train de crier et fêter la mort du grand Satan.
Jeannette aussi est parvenue à avoir des nouvelles de ses proches après des heures d'angoisse.
J'arrivais pas à les appeler, même sur les fixes. J'ai reçu un message de mon neveu comme quoi, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'étais rassurée.
Depuis, les communications sont redevenues difficiles, voire impossibles. Elle attend encore un message de ses sœurs.
Mon téléphone, en ce moment, c'est tout le temps. Même la nuit, à côté de mon lit.
Le téléphone de Cambise, lui, reste désespérément silencieux. Voilà 4 jours que son frère ne l'a pas contacté.
On appelle, ça sonne dans le vide. Il coupe toutes les communications. Il n'y a rien à faire. Quand même, c'est inquiétant. Hein.
À côté, une autre Iranienne, elle aussi, sans nouvelles. Les larmes aux yeux, elle craint que la République islamique d'Iran ne redouble de violence. Un animal blessé peut attaquer de toute sa force, dit-elle.
Et dans ce contexte, on a appris qu'une fusillade aux États-Unis a fait 2 morts et 14 blessés hier à Austin, au Texas. L'auteur présumé des tirs abattu par la police a été identifié comme favorable au pouvoir iranien. De potentielles attaques redoutées en France. Laurent Nunez appelle les préfets et les autorités à la plus grande vigilance et à renforcer la sécurité autour des lieux de culte juifs. Constance Postohen.
Oui, alors que la fête religieuse de Pourim débute ce soir, le ministre de l'Intérieur appelle les préfets, les directeurs de la police et de la gendarmerie et la directrice de la DGSI à renforcer la sécurité autour des lieux de culte juifs et des rassemblements religieux israélites. Une sécurité qui doit passer selon lui par des dispositifs adaptés localement en fonction du niveau de risque. Ces indications interviennent 24 heures après l'envoi d'un premier télégramme dans lequel Laurent Nunez avait demandé la mise en vigilance des forces de l'ordre en France pour, je cite, détecter toute action susceptible de troubler l'ordre public. Il demandait au préfet notamment de signaler aux services de renseignement toute tentative d'ingérence étrangère.
À retenir également ce matin le procès de Tariq Ramadan, jugé à Paris pour viol sur 3 femmes entre 2009 et 2016, des faits que le prédicateur conteste. Il est 7h07, vous écoutez RMC, de nouvelles accusations d'antisémitisme qui visent Jean-Luc Mélenchon au cœur de la polémique. Après avoir ironisé la semaine dernière sur la prononciation du nom du pédocriminel Jeffrey Epstein, le chef de file des Insoumis a réitéré hier dans un meeting au soutien du candidat LFI à Perpignan, s'attaquant cette fois à Raphaël Glucksmann dans la salle pour RMC, Cyprien Pézril du service politique.
Devant les siens, longuement, Jean-Luc Mélenchon se défend de tout antisémitisme. Puis au détour d'une phrase, il cite le nom de son concurrent de gauche.
Gauche, comme monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore. Glucksmann, pardon. Après, j'en ai pour des heures, quoi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans pas plus d'une minute, hein. Ça va pas traîner.
Dans la salle acquise à sa cause, la remarque passe inaperçue, mais plus tard, Raphaël Glucksmann partage l'extrait sur les réseaux sociaux et renomme Jean-Luc Mélenchon Jean-Marie Le Pen. Ce n'est plus un dérapage, mais une stratégie qui dérive sur les eaux noires de l'antisémitisme, dénonce aussi le patron du PS, Olivier Faure, sans pour autant remettre en cause les alliances locales de son parti avec LFI au municipal. Une nouvelle polémique après celle sur la prononciation du nom de Jeffrey Epstein. Ces accusations sont infondées, répondent les troupes du leader insoumis. Un député jure qu'il n'y a pas de mauvaise intention, que rien n'est préparé. Jean-Luc Mélenchon n'écrit pas ses discours en amont, mais cet élu de reconnaître du bout des lèvres, je cite, que c'est malheureux et maladroit.
L'absence de vaches au salon de l'agriculture qui a sûrement pesé sur la fréquentation de l'événement, en baisse de près de 28% avec 437 000 visiteurs.
RMC 7h08, l'OM remporte le duel des Olympiques.
Mené par deux fois, les Marseillais ont renversé Lyon pour finalement s'imposer 3-2 hier soir au Vélodrome grâce à un doublé du vétéran Pierre-Emerick Aubameyang. Heureux hier soir, écoutez.
Beaucoup de jeux, beaucoup de plaisir, beaucoup d'intensité. En tout cas, c'est ça le discours. Donc on suit et on avance. Il y a encore pas mal de points à prendre dans le championnat. Si on retrouve le cap et qu'on avance dans ce sens-là, comme ce soir, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et en championnat et en Coupe de France.
Et quatrième ce matin au classement, l'OM revient à 2 points de Lyon, l'OL et l'OM qu'on va retrouver cette semaine en Coupe de France respectivement opposés à Lens et à Toulouse.
Et je vous précise que l'After Foot sera ce soir à Aubière, à côté de Clermont-Ferrand pour les 20 ans de l'émission. Rendez-vous à 22h, émission en direct et en public. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va poursuivre sur la guerre au Moyen-Orient. Alors que les bombardements se poursuivent, la mort de l'ayatollah Ali Khamenei peut-elle libérer le peuple iranien? Bonjour Hilda Degani. Vous êtes militante franco-iranienne. Vous avez fui l'Iran dans les années 80 avec vos parents. L'opération israélo-américaine fait naître dans la population iranienne de grands espoirs. C'est votre parti pris, vous le défendez dans un instant sur RMC. Il est 7h09.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Ce que vous entendez là, à l'antenne, ce sont les cris de joie ce week-end à Téhéran, des habitants qui se réunissaient spontanément après l'annonce de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Après 50 ans de règne sanglant, ultra-religieux, le régime des Mollahs peut-il être renversé? On va se poser la question ce matin avec vous, Hilda Degani. Bonjour. Vous êtes militante franco-iranienne. Vous avez fui l'Iran à l'âge de 13 ans avec vos parents. Vous êtes en contact permanent avec les Iraniens sur place. Un immense espoir est en train de naître. C'est votre parti pris ce matin. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si ces manifestations qui ont eu lieu ce week-end, j'imagine qu'elles se font de manière prudente, mais en même temps, ce sentiment, il est partagé par une vaste majorité de la population?
Oh oui, bonjour, merci de donner la parole. Écoutez, oui, c'est une joie et un espoir immense qui est né, l'espoir de voir enfin ce pays libéré. J'ai eu la chance d'avoir quelques contacts. Après les frappes, les téléphones ont été coupés à peu près une heure après le début des frappes. Mais avant cette coupure et avant la coupure Internet, j'ai eu des contacts avec des Iraniens dans différents endroits. Et vraiment, tout le monde était soulagé de voir enfin peut-être un espoir de mettre fin à ce régime grâce aux attaques des alliés, aux attaques des libérateurs. Et c'est comme ça que ça a été vécu. Et j'ai eu aussi un appel téléphonique miraculeusement hier à 11h20. Et c'est vrai que la personne est vraiment très proche des QG, des gardiens de la Révolution, physiquement. Mais sa voix était une joie immense de dire enfin, il y a un espoir. Donc oui.
Ce que vous voulez dire, et d'ailleurs vous le précisez, d'abord que évidemment c'est très compliqué, hein, les liaisons sur place sont complexes, à la fois parce que de toute façon il y a le conflit, mais par ailleurs aussi parce que le pouvoir iranien tente de continuer à contrôler en quelque sorte la population. Quand vous dites, et quand vous précisez que cet appel à 11h20 avec un de vos proches, qui est physiquement près du lieu où ont eu lieu notamment les bombardements, ça veut dire que malgré l'inquiétude pour sa propre vie, puisque j'imagine que lorsqu'on est proche de l'endroit où il y a eu un impact, eh bien, l'espoir est plus fort que tout cela. Il y a plus d'espoir que de crainte pour sa propre vie ou de crainte pour les conséquences physiques des bombardements.
Mais oui, mais parce que ça fait 47 ans que cette population, nous vivons, tous les Iraniens, et nous vivons dans l'angoisse permanente d'une mort qu'on ne sait pas comment éviter. Ceux qui meurent parce qu'ils ont pris un vol, ceux qui meurent parce qu'ils ont osé parler, ceux qui meurent parce que ils ont décidé tout simplement. En fait, c'est comme ça depuis 47 ans. Et moi, je peux vous dire que le nombre de personnes qui m'ont dit, même s'il faut qu'on meure, il faut que ça s'arrête, parce que de toute façon, notre vie n'est pas une vie.
Mettre fin à cette terreur, mettre fin à cette terreur. Il y a un mot que vous venez de dire, grâce au bombardement des libérateurs. Et on peut même le dire en préparant cette interview, vous nous avez même comparé en quelque sorte ces bombardements, aujourd'hui, les bombardements d'Israël et des États-Unis, au bombardement des Alliés en 1944. C'est-à-dire pour vous, c'est la même ampleur. C'est-à-dire que les bombardements des Alliés, vous faites cette référence-là dans votre esprit.
Ah mais clairement, et ce n'est pas moi qui fais cette référence, vous avez vu de nombreux Iraniens appeler au secours le monde libre. Comment est-ce que on peut encore faire croire que ce régime représente cette population? Comment on peut encore oser imaginer pouvoir négocier avec ce régime qui a prouvé être détesté par sa population, qui a prouvé que sa population et tout ce pays ne vaut rien pour lui, que c'est seulement son idéologie.
Quand vous dites, comment on peut encore imaginer négocier le président Macron lui-même, était extrêmement réservé au moment des frappes qu'il a tout de suite condamnées, appelant à la désescalade et appelant effectivement à une, je cite, négociation de bonne foi avec l'Iran.
C'est ça, la bonne foi. Qui ose encore, comment peut-il nous représenter français en tenant ces propos? La bonne foi en parlant du régime des Mollahs? Combien d'années ça fait qu'on négocie? Allons-nous nous faire croire? Avez-vous, Monsieur Drian, qui a passé des heures et des heures dans les négociations, a eu l'honnêteté de dire à quoi ça servait? Alors ça suffit maintenant de se cacher derrière une loi qui est là, qui serait là, une loi internationale pour protéger les tyrans, alors que des milliers d'Iraniens ont été tués le 8 et le 9 janvier. Personne ne s'est saisi des lois internationales de protection de cette population.
Le 8 et le 9 janvier, ce sont effectivement ces deux jours où il y a eu des massacres d'au moins 30 000 morts dans les rues de Téhéran. J'entends votre espoir immense, Hilda Degani. On a envie de pouvoir, dans les jours qui viennent, à nouveau vous appeler lorsque vous aurez davantage de nouvelles aussi de vos proches. Merci en tout cas d'avoir partagé. Je voudrais également qu'on puisse accueillir Raph au téléphone qui nous appelle au 32-16 de Mâcon. Bonjour Raph. Les conséquences de ces explosions, il y a un certain nombre de personnes sur place. Alors, il y en a certains qui disent effectivement leurs craintes. Et puis, il y a des influenceurs, il y a Élodie Gossuin qui ont fait des sortes d'appels un peu en larmes sur les réseaux sociaux. Ça vous a particulièrement choqué, Raph ?
Particulièrement, non, mais c'est un peu troublant quand même. D'avoir des concitoyens qui soient là-bas, qui soient bloqués, c'est gênant. Après, les gens qui partent actuellement là-bas, c'est un peu des foufous, parce que moi, si je vois le GIGN devant une banque, ben, j'y vais pas. Il y a un moment, il faut avoir aussi... Moi, je suis content quand même qu'ils aient fait quelque chose des États-Unis là pour contre l'Iran, parce que ça va être libérateur pour tout un pays, puis tout un peuple depuis, bah, comme la dame disait, là, 47 ans. Il y a le président, je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il tienne qu'il reste calme, enfin qu'il demande au calme et tout. C'est simplement parce qu'il a peur qu'il n'y ait pas des fadas en France qui pètent les plombs et qui fassent des attentats. À mon avis, c'est clairement ça.
Vous voulez dire que le message, il est plutôt vis-à-vis des Français. Le message d'Emmanuel Macron plutôt vis-à-vis des Français. Raph, un dernier mot, quand vous disiez ceux qui sont partis en vacances, c'est vrai qu'on a quand même de nombreux messages ce matin, notamment en référence à... alors il y a ceux qui sont partis vivre là-bas, hein, qui vivent désormais ce qu'on appelle les influenceurs à Dubaï. Et puis comment, pardon?
Moi je connais quelqu'un qui est là-bas.
Qui est là-bas et qui appelle la France à venir l'aider à repartir?
Ah bah il faudra, de toute façon il y a un moment, voilà, il est parti vivre là-bas, c'est un ressortissant français, il a ses papiers français, il faudra aller le chercher. Par contre, là, ce qui me gêne le plus, c'est ceux qui partiront peut-être, je sais pas, on va dire, demain en vacances. Ouais. Là, il y a des assurances de voyage à prendre. Il y a un moment, il faut se responsabiliser.
Ouais, l'appel à la responsabilité, effectivement. Raph, merci beaucoup d'être intervenu ce matin. Comme Raph, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Pendant ce temps-là, Notre historien du matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, on va continuer à parler des conséquences de cette guerre au Moyen-Orient avec vous. La guerre qui a touché pour la première fois, donc Dubaï, on le disait, et les Émirats Arabes Unis.
Oui, justement, on a vu ces vidéos d'influenceurs terrifiés sous les bombardements iraniens. Ce morceau de désert est devenu un centre économique et stratégique mondial, un modèle aujourd'hui qui est en péril, Apolline.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui est de retour, il va venir pirater le face-à-face, ne bougez pas. On se retrouve dans 60 secondes, il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On va remonter le temps, comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, les Émirats Arabes Unis sont une victime collatérale de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Dubaï et Abu Dhabi ont été touchés par des missiles iraniens.
Oui, plus de 100 missiles et 200 drones tirés par l'Iran sur les Émirats. Ces attaques marquent la fin d'une époque et surtout la fin d'un modèle, celui des Émirats Arabes Unis. Un paradis du luxe, de la modernité, des affaires et de la fête. Une oasis de paix dans une région très conflictuelle. Eh bien, tout ça, c'est fini. Le carrosse s'est transformé en citrouille.
Les Émirats Arabes Unis, c'est une création assez récente.
Alors oui et non. En fait, ça existe depuis le début du 19e siècle. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas les Émirats Arabes Unis, ça s'appelait les États de la Trêve. Ça regroupait à peu près la même zone géographique que celle d'aujourd'hui. Ces États étaient en fait un protectorat britannique, donc en fait une sorte de colonie anglaise, si vous préférez. Mais en 1971, tout change. Les Émirats prennent leur indépendance et fondent leur propre pays, les Émirats Arabes Unis, qui regroupent donc sept Émirats. Et à la tête de chaque Émirat, vous avez un émir, c'est-à-dire un roi.
Et parmi ces Émirats, c'est Dubaï qui va d'abord faire parler de lui.
Oui, et Dubaï à l'origine, c'est pas grand-chose. C'est un petit port de pêche sans prétention, sauf que dans les années 60, on découvre du pétrole et du gaz, évidemment ça aide. Et là, Dubaï va avoir l'idée du siècle, investir l'argent du pétrole dans le tourisme, avec un objectif complètement fou, devenir une destination paradisiaque en plein milieu d'un désert aride et hostile. En 1979, le premier gratte-ciel sort de terre.
Depuis, ça ne s'est jamais arrêté.
Ah ben non, on construit partout, tout le temps, un symbole de cette démesure. Le Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, inaugurée en 2010, on la voit à 90 km à la ronde. Autre performance, la palme Jumeirah, un archipel de 5 km carrés entièrement artificiel au large de la ville et qu'on voit depuis l'espace. Pour ça, il a quand même fallu importer 94 millions de mètres cubes de sable, du délire total. Une statistique, en 2022, une grue sur quatre dans le monde était à Dubaï.
Incroyable. Oui. La capitale du pays, c'est pas Dubaï par contre.
Eh bien non, c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est l'émirat le plus puissant du pays. Ça, évidemment, il regorge de pétrole. Et alors lui, sa stratégie, c'est pas le tourisme, c'est la culture et l'éducation. Un de ses premiers partenaires dans ce domaine, c'est la France. Et Abu Dhabi va tout simplement dupliquer nos institutions, à commencer par l'université de la Sorbonne, qui ouvre une antenne dans l'Émirat en 2006, la Sorbonne Abu Dhabi. C'est ensuite au tour du Louvre de s'exporter dans le désert. En 2017, le Louvre Abu Dhabi est inauguré à son tour. C'était tout simplement le plus grand projet culturel de la France à l'étranger.
Est-ce que ce pays est capable de se défendre ?
Alors sur le papier, oui. Les Émirats, c'est un pays très militariste. Le service militaire est obligatoire. D'ailleurs, quand il a été lancé en 2014, l'émir d'Abu Dhabi avait déclaré au New York Times, je cite, « Je veux que tout le monde se sente responsable. Dans ce pays, il y a trop de gros qui ne foutent rien. » Fin de citation, voilà, c'était assez martial. De tous les pays du Golfe, les Émirats, c'est celui qui dépense le plus pour sa défense, avec plus de 60 000 soldats d'actifs. La France est d'ailleurs un allié très important puisque nous avons une base navale permanente à Abu Dhabi. Et hier, cette base navale a justement été touchée par des frappes iraniennes. Là encore, c'est une première. Une preuve de plus que l'ère de la paix aux Émirats, c'est désormais révolu.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Pour écouter les chroniques d'Arthur, vous n'hésitez pas à tout moment en podcast sur l'application RMC 7h25. On retrouve Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
On peut le dire, Arnaud, pour votre retour, je vous ai fait un petit cadeau.
Oui, ah oui.
Puisque c'est donc Alain Bauer que je reçois tout à l'heure à
8h30.
Eh ben c'est mal barré cette affaire, c'est mal barré. C'est pour ça qu'on reçoit Alain Bauer, c'est à cause de la guerre. Alors au départ, Apolline, sachez qu'on devait recevoir Ali Khamenei, mais il a eu un petit empêchement. On n'arrive pas à le joindre, c'est curieux, ça sonne occupé. Et le nouvel ambassadeur du régime des Mollahs, Rima Hassan, n'était pas disponible puisqu'elle va respecter 48 heures de deuil. Donc vous recevez l'oracle Alain Bauer, l'homme qui sait tout.
I sait tout. Vous saviez que si ChatGPT ne sait pas quelque chose, il demande à Alain Bauer.
Oui.
Alain Bauer qui est capable de faire varier le prix du baril de brut par la pensée.
Oui.
Alain Bauer qui sait si c'est l'œuf ou la poule en premier. Alain Bauer, quand il joue aux échecs, ça s'appelle les succès. Voilà Alain Bauer. L'avenir se demande parfois ce qu'Alain Bauer lui réserve. Quoi que vous pensiez, Apolline, Alain Bauer le pense mieux. Mm. Alain Bauer qui sort son livre de la semaine, Chine, la revanche de l'Empire, c'est chez Fayard. Alain Bauer, c'est France Loisir dans les années 80. T'as pas le temps de lire le dernier bouquin, on te voit déjà le suivant. Depuis le début de l'année, il a sorti Trump, les mots du pouvoir, une autre histoire du crime, son polar intrigue à l'ONU et le livre sur la Chine, on n'est que le 2 mars.
Oui.
Alain Bauer, c'est 20% de la déforestation à lui tout seul. S'il fait déjà 15 degrés là, c'est sa faute.
Oui.
Et donc, il viendra nous parler de la guerre.
Aimer, c'est ce qui est plus.
Bah c'est raté aussi, c'est la guerre. C'est normal qu'ils viennent nous voir, parce que dans des moments comme ça, on sort les experts. Vous avez vu, depuis samedi, BFM TV a invité des tonnes de généraux. On les a tous ressortis de la boîte. Hier, il y en avait un qui s'appelait... Non, hier, il y en avait un, il s'appelait le général Vigilant. C'est vrai, c'est ton vrai nom. Emmanuel Macron, il avait dit que la France n'avait pas été prévenue des frappes en Iran. Il a bien fait son boulot, le général Vigilant.
C'est quoi ce bordel? Personne n'a rien vu? Appelez-moi le général Vigilant. Pardon, j'étais sur Candy Crush. Il se passe un truc.
Il y avait aussi le général Vincent Desportes qui lui aussi a un truc rigolo. C'est pareil, c'est authentique. Il a fait un truc. Il a dirigé l'école de guerre. Mmh. Ça doit être dingue ça, l'école de la guerre. C'est-à-dire, le matin, t'as une leçon de guerre. Mmh. Le midi, un TD sur la guerre. Mmh. L'après-midi, il y a histoire de la guerre. Et à la fin de la journée, tu fais la guerre contre l'école de la guerre d'en face. Et les profs doivent être déprimants.
Prenez vos cahiers. On va faire une interrogation écrite comme vous n'en aurez jamais vu. Prenez une feuille à grands carreaux. Des carreaux qui me rappellent la petite fenêtre qu'il y avait dans ma cellule pendant que j'étais capturé par les Vietcong. Il y avait des cris partout, c'était horrible.
Ça peut être traumatisant pour les élèves. Mais pour l'heure, l'expert, c'est Alain Bauer. C'est pour la guerre et c'est à 8h30.
Merci
à tout à l'heure.
Arthur, on vous retrouve aussi à 8h20. Il est 7h28. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite. 7h30 et il fait beau, Anthony.
Oui, sur quasiment tout le pays, notamment sur les régions qui ont été impactées par les crues. D'ailleurs, on n'a plus de vigilance aux crues aujourd'hui. Ça fait un mois que ça n'était pas arrivé et donc le soleil va s'imposer quasiment partout. Sauf près de la Méditerranée, entre Languedoc-Roussillon, Cévennes, Provence et Corse, vous aurez des nuages, quelques averses et un vent très sensible. Puis un petit voile de nuages entre le sud-ouest et les régions centrales. Les températures, c'est un peu frais dans l'Est ce matin. On frôle le 0 degré du côté de Metz et de Nancy notamment, mais en cours de journée, très grande douceur partout. Température printanière entre 15 et 18 degrés et 18 à 20 degrés au sud de la Garonne.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise. Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'embrasement au Moyen-Orient, 48 heures après le début de l'offensive israélo-américaine sur l'Iran et l'inquiétude très vive des Français bloqués à Dubaï, à Doha et à Abu Dhabi, où des explosions ont encore été entendues ce matin. Un conflit parti pour durer. Donald Trump parle de 4 semaines et l'Iran pourrait bien avoir les moyens militaires de tenir, ce qui aura forcément des répercussions économiques, notamment à la pompe. Les prix du pétrole commencent déjà à flamber. Quel sort pour les Français bloqués au Moyen-Orient? C'est toute la question ce matin après un week-end extrêmement tendu et la riposte iranienne à l'offensive menée par Israël et les États-Unis. Riposte que l'on constate encore ce matin avec un mort à Bahreïn, des explosions entendues à Dubaï, Abu Dhabi et Doha où sont coincés des milliers de ressortissants français. C'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères convoque ce matin une réunion d'urgence au Quai d'Orsay. Il sera notamment question de leur possible évacuation. Mais en attendant, pour ceux qui sont sur place, Inès Zegloul, l'angoisse est forcément totale. Et lorsque j'appelle Awa, par exemple, elle décroche dans le hall de son hôtel à Dubaï. À peine le temps d'échanger quelques mots qu'elle s'arrête net de parler. Il y a des booms, dit-elle, 3 déflagrations.
J'ai juste vu une sorte d'énorme fumée noire. Je me suis mis à pleurer et je me suis mis à croupir et on est venu me chercher, quoi. On m'a donné de l'eau. C'est vraiment comme si c'était un peu l'apocalypse. Et on sait même pas les explosions viennent d'où. Ça peut être à 5 km comme à 20 km. Peut-être que ça va arriver sur ma tête. Peut-être qu'il y aura des débris. On se dit au secours.
Elle devait rentrer en France samedi. L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. Il faut trouver une solution, exhortent les expatriés. Ils sont plus de 20 000 à Dubaï, parmi lesquels Valentin.
On a tous préparé un petit sac ou une petite valise avec l'essentiel. Si demain on doit partir du jour au lendemain pour se faire rapatrier en France, quoi. Moi, j'attends l'appel pour le rapatriement aussi vite que possible. Ça peut être très bien demain comme dans une semaine. En fait, on nous communique très peu d'informations malgré tout par rapport à ça, quoi.
Alors les agences de voyage, les ambassades croulent sous les appels fermés. Les espaces aériens des pays du Golfe, c'est aussi en quelque sorte mettre à l'arrêt l'un des plus grands ronds-points aéroportuaires au monde. Étape presque obligatoire pour certains voyageurs. Résultat, des Français nous disent être bloqués également en Asie du Sud-Est, en Inde ou encore sur le continent africain.
Inès Zegloul pour RMC. L'angoisse aussi au Liban ce matin. Liban où Israël frappe depuis cette nuit. Un premier bilan fait état de 31 morts et près de 150 blessés. Et ce matin, ce sont des milliers de Libanais comme Tania qui sont contraints de fuir le sud du pays.
J'avais préparé mes valises, mais le temps que je mette mes valises dans la voiture, il y avait déjà des frappes à côté de chez moi. J'ai attendu que les avions passent et puis j'ai pu mettre mes affaires dans la voiture. Je compte partir chez des amis ou bien la famille, mais ça va être dur d'arriver parce qu'il y a trop de monde là.
Toute la population avec leur voiture, il y a des camions avec 5, 6, 10 personnes, il y a des gens qui marchent avec leurs affaires.
La situation s'aggrave. Je ne sais pas quand je vais rentrer dans le sud, je ne sais pas si cette fois je vais être épargnée. Personne ne sait.
Et de son côté, Téhéran rejette désormais toute négociation avec les États-Unis, ce qui augure d'un conflit possiblement long. Hier, Donald Trump tablait sur 4 semaines. Et c'est tenable pour l'Iran, selon le spécialiste Étienne Marcuse.
L'arsenal iranien est bien plus important que les arsenaux des pays européens. Ils ont très probablement plusieurs centaines, voire quelques milliers de missiles courte portée. Et probablement plusieurs milliers de drones comme ceux qui sont utilisés contre l'Ukraine. L'Iran est un pays qui se préparait à cette guerre depuis plusieurs décennies. Et donc, même si le coup a été très rude, ils vont garder une capacité à nuire aussi bien aux Américains, aux intérêts américains qu'israéliens dans la région.
Et un conflit qui s'installe dans la durée, c'est un conflit qui aura des répercussions économiques. On le voit déjà avec la flambée des prix du pétrole ce matin, plus 13% pour le baril qui dépasse désormais les 80 dollars. Conséquence directe de la fermeture du détroit d'Ormuz où transite 20% de la consommation mondiale du pétrole, Marion Degas.
Oui, puisque c'est ce couloir maritime qui relie les pays pétroliers du Moyen-Orient au reste du monde. Philippe Chalmin est spécialiste des marchés de matières premières.
Chaque jour, 20 millions de barils passent par Hormuz. On est quand même là en face de 1/5 de la consommation mondiale et 1/3 des échanges.
Plusieurs pays membres de l'OPEP espèrent alors amortir le choc en augmentant leur production de pétrole. Mais ça ne suffira pas, explique Jean-Louis Chilansky, expert pétrolier.
Les 200 000 barils jour qui sont promis par l'OPEP+, n'ont rien à voir avec les 20 millions de barils jour qui passent par Hormuz. C'est pas du même ordre de grandeur.
Alors en cas de fermeture prolongée du détroit, la hausse du prix de l'essence serait une conséquence inévitable. Un spécialiste me confiait qu'un dollar de hausse sur le prix du baril équivaut à 1 centime de plus sur le prix à la pompe.
60 navires français sont actuellement bloqués dans le détroit d'Ormuz. La France qui prendra des mesures pour défendre ses intérêts et ceux de ses alliés dans la région. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir lors d'un deuxième conseil de défense organisé à l'Élysée.
7h36, événement RMC ce matin, les grandes gueules en direct de Nice à moins de 2 semaines des élections municipales.
Là où se joue un duel fratricide entre le maire sortant Christian Estrosi et son ancien bras droit Éric Ciotti, désormais allié du Rassemblement National et favori selon le dernier sondage Elabe, une élection extrêmement stratégique pour lui, Romain Cluzel.
L'enjeu est double pour Éric Ciotti. D'abord, sur le plan national, faire de cette élection niçoise la preuve que l'alliance avec le RN fonctionne. Après son départ fracassant de LR lors de la dissolution en 2024, Éric Ciotti s'est retrouvé isolé, mais il en est persuadé, une victoire à Nice serait un déclic pour que de nombreux élus de la droite franchissent le pas et le rejoignent. Et puis, sur le plan local, c'est un duel fratricide avec Christian Estrosi, le maire sortant. Ils ont travaillé ensemble pendant des années, mais désormais, c'est la guerre ouverte. Chaque prise de parole ou presque est l'occasion d'attaquer l'autre. Et dans cette atmosphère plus que tendue, Christian Estrosi a retrouvé ce samedi une tête de porc accrochée sur le portail de son domicile avec une affiche antisémite. Une enquête a été ouverte et Éric Ciotti lui a apporté son soutien.
En Ligue 1, la course à la 3e place fait rage après la victoire 3-2 hier soir de Marseille face à Lyon. L'OM qui n'est plus qu'à 2 points de l'OL et du podium avec Paris et Lens en tête.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Caen.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 7, Koala Blue. L'outsider, c'est le 11, Joker de Choisel.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37. On continue évidemment à revenir sur les tout derniers développements de la guerre au Moyen-Orient. On est avec le général Dominique Trinquant dans un instant. Bonjour général.
Bonjour.
Vous êtes déjà dans ce studio. On va revenir notamment sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Une base française aux Émirats a été touchée par l'Iran. Le président français annonce un renforcement de nos capacités de défense et une défense active. On verra ce que ça veut dire dans un instant. Quelle sera la réponse française? Je vous pose la question. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La France qui rehausse sa posture de défense au Moyen-Orient. Voilà l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Bonjour, général Dominique Trinquant. On va refaire le point minute par minute, j'allais dire, ce matin avec vous. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre livre, D'un monde à l'autre, c'est aux éditions Robert Laffont. Et c'est au fond ce qu'on est en train de vivre. On est en train peut-être de passer d'un monde à l'autre. Je voudrais revenir sur les tout derniers développements de la nuit. On va parler évidemment des explosions qui ont été entendues à l'aube ce matin. Jérusalem, Dubaï, Doha, Bahreïn, au Liban. Mais aussi cette déclaration conjointe de Berlin, Paris et Londres, les trois pays qui ensemble déclarent qu'ils sont prêts, je cite, à des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité militaire de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Est-ce qu'on est en train de rentrer dans la guerre?
Alors, on rentre dans la partie défensive de cette guerre, c'est-à-dire pas dans l'opération offensive américano-israélienne, mais nous avons des accords et nous avons des bases dans la région pour la France, Jordanie, Abu Dhabi en particulier. D'ailleurs, la base d'Abu Dhabi qui a été touchée, enfin la partie navale du moins. Et donc, on doit prendre des mesures pour défendre ça, défendre nos alliés et nous défendre. Alors, on a des moyens au sol, hein, je parlais d'Abu Dhabi, aériens, en Jordanie et à Abu Dhabi, mais aussi on a une frégate à la mer hein, qui permet d'intercepter des drones, des missiles de façon à limiter les dégâts dans cette région.
Il y a donc une forme d'alliance, elles ont parlé d'une seule voix, Berlin, Paris et Londres?
Oui, tout à fait, et même un autre élément, vous savez que on parle du détroit d'Hormuz qui risque d'être bloqué, mais il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb où il y a les Houthis qui sont des proxys iraniens qui sont là.
Proxy, ça veut dire des alliés au
des fond. Alliés, voilà, des alliés iraniens qui pourraient interrompre le passage de Bab el-Mandeb. Et il y a une opération européenne qui s'appelle EPID. On a décidé de la renforcer avec deux bateaux français qui s'ajoutent au dispositif pour escorter les bateaux de commerce qui passent par là.
Quand vous dites qu'il y a effectivement nos bateaux, on a évoqué un temps la possibilité que le Charles de Gaulle refasse route alors qu'il est aujourd'hui basé, ce porte-avions nucléaire français, dans la mer Baltique, près de la Suède. Donc c'est effectivement très loin hein, s'il reprenait la route. Est-ce que cette option est envisagée?
C'est une option à envisager. Si vous voulez, il y a deux options. Soit de dire, dans le cadre de l'OTAN, messieurs les Américains, vous êtes occupés au sud, eh bien nous avons le porte-avions, monsieur Trump, ne vous inquiétez pas, le Groenland, on s'en occupe, vous voyez ce que je veux dire comme message envoyé à monsieur Trump, soit de dire, les intérêts français risquent d'être menacés et on renvoie le porte-avions en Méditerranée pour assurer la protection en Méditerranée. Ce sont les deux options. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de décision qui a été prise.
Dans la nuit, Donald Trump a évoqué une sorte de calendrier. Il a dit que cette guerre, elle pourrait durer 4 à 5 semaines. Est-ce que d'abord c'est crédible? Est-ce que ça peut durer davantage? Ou est-ce qu'en 4 à 5 semaines, les objectifs, et d'ailleurs quels sont-ils, pourront être atteints?
Écoutez, je pense qu'il y a trois options. D'abord, les objectifs atteints, vous avez raison. Les dernières frappes frappent essentiellement le système de sécurité iranien. Passe d'Aran, police, répression des manifestations, etc. Donc, il va falloir évaluer où on en est arrivé. Le deuxième facteur, c'est la logistique, tout bêtement. Combien de missiles, combien de munitions dispose-t-on pour faire la guerre? 4 semaines, 5 semaines? Je pense que c'est les chiffres qui lui ont été donnés par l'état-major. Le troisième critère, c'est la pression interne américaine. Aujourd'hui, bon, une grande partie de la population américaine n'est pas pour cette opération. Il y a eu 3 morts pour l'instant. Le président Trump reconnaît. Il ne faut pas que les pertes augmentent trop, parce qu'à ce moment-là, il risque d'avoir une pression aux États-Unis qui risque de le pousser à limiter ses opérations.
Vous parlez de la question du nombre de missiles. Évidemment, la question, c'est quelles sont les capacités iraniennes, quelles sont les capacités américaines, et aussi la question du dôme de fer, ces fameux missiles antimissiles pour protéger notamment la population israélienne, ce qui n'a pas empêché qu'il y ait eu plusieurs victimes hier et des missiles iraniens qui ont malgré tout réussi à toucher le sol israélien. Combien de temps Israël peut tenir ? Est-ce qu'ils ont encore suffisamment de matériel ?
Alors oui, il y a Israël, le dôme de fer dont vous parlez. Il y a le porte-avions, rappelons-le, qui est en Méditerranée, qui est, dont une des missions est la protection. Nous avons les alliés, je parlais de la base de Jordanie. Déjà au mois de juin, les avions français avaient décollé pour intercepter des missiles. Donc il y a tout ce dispositif-là.
On peut aller aider, en quelque sorte ?
Oui, bien sûr.
Y compris les Israéliens, s'il le faut ?
Oui, parce que l'attaque contre Israël, bien sûr, Israël doit être protégé. Donc, c'est la lutte entre les capacités iraniennes de frappe et les capacités des alliés de protéger la zone.
Je voudrais qu'on puisse accueillir aussi Sylvie. Sylvie, vous êtes au téléphone avec nous de Ashdod, c'est dans le sud de Tel Aviv. Sylvie, comment se passe votre quotidien ? Comment s'est passée la nuit ?
La nuit, ça a été relativement tranquille du côté d'Ashdod. Dans le nord, ça a bougé pas mal. Ce matin, à 7h, ça a été une salve nationale. Ça a été un arrosoir de missiles, un arrosage de missiles. Toute la carte du pays a été mise de rouge. Ça a tiré en masse. Rebelote à 7h38. Ça tire de partout.
Vous êtes où au moment où on se parle, Sylvie ?
Je suis à Ashdod, moi.
Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez rester dans votre maison, vous avez un abri, comment ça se passe ?
Oui, de toute façon, la plupart, à partir de constructions remontant à plus de 25 ans, tous les appartements sont dotés de miklat, ce qu'on appelle la chambre de sécurité. Les maisons les plus vieilles, elles bénéficient ou de sous-sol ou d'entre-étage, ce qu'on appelle aussi les miklat. Et puis pour les vieilles bâtisses, sont mis à la disposition ce qu'on appelle des abris, comme hier à Beth Shemesh, ce sont des abris en extérieur.
Quand vous dites à Beth Shemesh, c'est là qu'il y a eu quand même 9 morts effectivement hier. Ouais. Comment réagissent, j'imagine que vous vous appelez les uns les autres, comment vous réagissez justement notamment à ces morts ?
Écoutez, c'est la guerre. Je vais dire quelque chose qui risque de vous choquer. On vient de sortir du 7 octobre. On n'a pas signé avec Gaza. Il y a le sud Liban. La guerre nous laisse un goût amer. On sait que c'est pour notre défense. Nous, on a un droit d'existence et on doit s'affirmer. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui était vraiment très menaçant, trop menaçant. Mais si on remet les choses en place, Israël, c'est 9,5 millions d'habitants. C'est une souris sur un dos d'éléphant. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. On est tout petit sur la carte. On est hyper puissant, mais on est menacé.
Et c'est effectivement ce que ressent la population israélienne. Merci en tout cas, Sylvie, d'avoir témoigné. Donc, Sylvie, au téléphone avec nous depuis le sud de Tel Aviv. Un mot d'ailleurs, Sylvie l'évoquait, le Liban, général Trinquant, entré dans la danse du Hezbollah hier, qui a tiré vers Israël. Israël qui a répliqué, le pouvoir libanais qui a condamné d'ailleurs plutôt les interventions du Hezbollah, reprochant au Hezbollah d'entraîner le Liban à nouveau dans une guerre qui n'est pas la leur.
Oui, et ça, c'est une bonne modification du langage du gouvernement libanais.
Ça m'a beaucoup frappé. Oui, c'est la première fois qu'il condamne d'abord le Hezbollah pour ses propres responsabilités.
Comme vous le savez, depuis la résolution 1701, en 2006, normalement, le Hezbollah aurait dû être désarmé. Ça a été très lent. L'ONU a mis une date finale, c'est-à-dire à la fin de l'année, fin 2026. La FINUL, où j'ai commandé un bataillon, devra avoir quitté, c'est-à-dire que le Liban doit avoir pris en main le problème du Hezbollah. Et je crois que le langage donc libanais est bienvenu. Ça veut dire qu'il condamne les actions du Hezbollah qui veulent entraîner le Liban dans la guerre, alors que le Liban ne veut pas rentrer dans cette guerre.
Merci beaucoup, Général. On aura beaucoup besoin de vous dans les prochains jours, parce qu'on le sent bien. On est effectivement au début donc de ce conflit. Je vous reprécise que Donald Trump a dit dans la nuit que ça durerait 4 à 5 semaines. Il est 7h50, on va continuer d'ailleurs à en parler avec notre voix de droite, parce que c'est lundi et c'est Charles Consigny. Bonjour Charles. Emmanuel Macron a dit n'avoir été ni prévenu ni impliqué dans les frappes israélo-américaines, et ça vous fait réagir, Charles?
Ce que je pense, chère Apolline, c'est que, alors même que nous avons une base militaire à Abu Dhabi, il est hallucinant qu'on n'était ni prévenu ni associé. Je crains que cela montre à quel point les grands de ce monde aujourd'hui font leurs affaires sans nous.
Vous nous le dites dans un instant, 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51. Dans un instant, la voix de droite, Charles Consigny, qui nous dira que la France a été un peu la grande oubliée de l'histoire. Mais d'abord le bonus, Charles, avec les Rolling Stones, pour commencer la semaine.
Et la chanson Gimme Shelter, dont vous entendez un extrait mythique, chanson de 69, au cœur d'un bras de fer entre les rockers et le clan Trump. Parce qu'on entend la chanson au début du documentaire Melania, consacré à la première dame des États-Unis. Documentaire hagiographique qui suit Melania Trump en coulisses dans les semaines qui précèdent l'investiture de son mari. Les Stones ne sont pas contents d'être génériques, alors le producteur du film affirme être dans son droit. Je vous passe les détails, les papys rockers assurent n'avoir jamais été ni consultés, ni donné leur aval. Et on rappelle que ce n'est pas la première fois. D'autres artistes se sont plaints de l'utilisation de leurs chansons par Trump, Taylor Swift, Sabrina Carpenter ou les Stones déjà, tiens.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Il est 7h52 et c'est la voix de droite comme tous les lundis sur RMC. Charles Consigny. Charles, je précise que vous êtes en direct avec nous de Nice parce que les GG sont à Nice ce matin et que vous les accompagnez. On en parle depuis ce matin sur RMC, la guerre au Moyen-Orient évidemment, qui s'étend à toute la région. Et Charles, vous vouliez revenir sur un aspect qui vous choque, le rôle de la France ou le non-rôle de la France.
En tout cas, le fait que la France, par exemple, si elle avait voulu défendre la poursuite des négociations ou évacuer préalablement ses ressortissants ou essayer de prendre quelques mesures que ce soit, n'a pas pu le faire puisqu'elle n'a pas été du tout associée à cette opération. Moi, ce que je pense, c'est que de façon plus générale, on cherche dans la période récente la voix singulière de la France, cette voix singulière qui s'exprimait par la voix de Jacques Chirac quand il se mettait en colère dans les rues de Jérusalem. Cette voix singulière, bien sûr, qui était celle du général de Gaulle, mais sans remonter jusqu'à de Gaulle. Cette voix singulière qui était celle du leadership européen de Nicolas Sarkozy pendant la crise en Géorgie ou pendant la crise des subprimes. Eh bien, cette voix-là, moi, je la cherche et je pense que si elle a disparu, c'est parce que nous avons banalisé notre parole, notamment sur le conflit à Gaza, où nous avons certes porté tardivement la reconnaissance de l'État palestinien, et c'était une bonne chose, mais ça a été très tardif. Des milliers d'enfants étaient déjà morts. Nous avons été, à mon sens, extrêmement faibles sur la question de Gaza. Et nous avons, de façon générale, banalisé notre voix. Nous nous sommes soumis à plus puissants que nous et nous avons perdu cette singularité, cet équilibre.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous,
la
France ne compte plus, Charles ?
Je pense que nous avons perdu cette voix singulière, l'équilibre entre le Nord et le Sud dont nous étions capables, et puis aussi une voix morale, culturelle, intellectuelle qu'on était capable de porter, au-delà d'une voix d'ailleurs militaire, puisque souvenez-vous aussi des opérations Serval, Barkhane, au Sahel, qui étaient des opérations de grande complexité et de grand talent militaire de la part de la France. Et j'ai l'impression que tout ça s'est réduit un peu à peau de chagrin, parce qu'aussi notre pays s'est beaucoup affaibli sur le plan économique. Et donc moi, ce que je pense, c'est que les Français, là, doivent se demander ce qu'ils veulent choisir. Est-ce qu'ils veulent choisir de sortir de l'histoire, ce qui est en train de se produire, ou est-ce qu'ils veulent reprendre la plume de cette histoire et écrire de nouveau l'histoire de la France dans le monde ?
Vous dites qu'on est en train de sortir de l'histoire, mais enfin, on a tout de même la puissance nucléaire. Il en parlera d'ailleurs tout à l'heure Emmanuel Macron avec son grand discours sur la question du partage ou non, d'ailleurs, du parapluie nucléaire. On a notre siège permanent au Conseil de l'ONU, c'est pas rien, Charles.
Vous voyez bien que de façon quasi systématique maintenant, la France, mais d'ailleurs ça vaut presque pour toute l'Europe, n'est plus consultée ni par les Américains, ni bien sûr par les Russes, ni par les Chinois. Souvenez-vous de la dernière, du dernier voyage d'État d'Emmanuel Macron en Chine. On sentait le président chinois tout à fait ennuyé et impatient que ça se termine. Donc on a, je pense, beaucoup perdu. On s'est laissé sortir d'Afrique de l'Ouest où on avait des bases militaires. On a accepté de tout fermer, de partir quasiment honteux et on se met à nous-mêmes des règles diverses et variées qui empêchent nos entreprises de concurrencer efficacement les Américains et les Chinois dans le monde, et on a une politique qui est beaucoup trop timide à mon sens à l'international. Je vous prends un seul exemple. Quand deux gendarmes français ont été arrêtés en Israël en présence du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot n'a rien fait. Il aurait dû quitter séance tenante le territoire sur lequel il se trouvait. Il ne l'a pas fait parce que il a été été faible. Et depuis quelques années, nous sommes faibles, mais nous sommes faibles aussi parce que nous manquons de moyens, parce que nous avons par ailleurs une économie qui est dans un très mauvais état, parce que la France dans son ensemble est démotivée. Et donc moi, je pense que c'est un ensemble et que si les Français se remettent à travailler, ils peuvent recommencer à espérer compter dans le monde. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on est spectateur des événements.
Retrouver une forme de rayonnement. Merci Charles. Charles Consigny, donc en direct de Nice, où vous serez avec les grandes gueules, avec Alain Marchal. Ça sera évidemment de 9h à midi, en direct et en public depuis la Villa Masséna. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour le journal de 8h. C'est frappe israélienne-Liban. Le conflit avec l'Iran qui s'élargit. La météo, le temps est sec et ensoleillé pratiquement partout. Et puis juste après le Noël, juste après le journal, l'économie avec vous, Pierre Rondeau. Pierre, l'embrasement au Moyen-Orient fait craindre le pire pour les prix du pétrole.
Oui, les prix vont certainement augmenter, tout dépend de la durée et de l'intensité du conflit.
A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59 sur RMC et il fait beau, Anthony.
Mais oui, c'est un lundi presque printanier sur tout le pays, à l'exception des côtes méditerranéennes et des Cévennes. Là, vous avez des nuages, des averses et un vent assez sensible. Ça va durer toute la journée. Mais ailleurs, effectivement, conditions sèches, ensoleillées, avec juste un voile de nuages entre le sud-ouest, les régions centrales et la Normandie. Les températures, c'est un peu frais dans l'est ce matin. 0 à Nancy, 1 à Strasbourg, 2 à Reims. Mais entre 4 et 15 degrés partout ailleurs. Et dans l'après-midi, température digne du une mi-avril avec souvent entre 14 et 18 degrés, 17 à Paris et Strasbourg et jusqu'à 20 degrés au Pays Basque à Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Vous avez choisi RMC, vous avez bien fait. Très bon lundi à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On va faire un point complet dans ce journal sur l'embrasement, encore un peu plus d'ailleurs ce matin au Moyen-Orient, avec l'Iran, encore visé par des bombardements. L'Iran d'ailleurs qui riposte, on va voir ça, et le conflit qui s'étend au Liban, où le bilan est d'au moins 31 morts ce matin. Combien de temps cette guerre va durer? Vous allez entendre Donald Trump, il parle d'une opération de 4 semaines. Et chez nous en France, il y a une réunion qui va commencer dans quelques minutes au Quai d'Orsay. Et Emmanuel Macron qui parlera dissuasion nucléaire cet après-midi depuis une base de sous-marin en Bretagne.
Ce matin, des sirènes d'alerte retentissent dans tout le Moyen-Orient.
Et c'est important de bien comprendre ce qui se passe. On va voir ça avec vous, Romain Houk. Vous suivez la situation depuis très tôt ce matin pour RMC. Ça fait donc 3 nuits que l'Iran est visé par des bombardements. C'est comme ça, en fait, depuis la mort du guide suprême samedi, dans une opération menée par les États-Unis et Israël en Iran. L'info ce matin, c'est donc que l'Iran riposte et mène des frappes dans toute la région.
Oui, des explosions entendues à Doha, au Qatar, à Abu Dhabi et à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le Bahreïn annonce également la mort d'une personne dans des frappes iraniennes après la chute d'un débris. Pourtant, à 5 le nombre de victimes dans les États du Golfe depuis samedi. Des explosions ont également été entendues à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens. Et puis, au Koweït, c'est l'ambassade américaine qui aurait été visée. Selon des journalistes sur place, une épaisse fumée noire s'élève en ce moment du bâtiment. Ne venez pas à l'ambassade, demandent explicitement les Américains dans un communiqué.
Et depuis cette nuit, Romain, il y a le Liban qui est à nouveau entraîné dans la guerre. C'est Israël qui mène des frappes.
Oui, en réponse à des missiles tirés par le Hezbollah, allié de l'Iran, depuis le Liban et en direction du nord d'Israël. Voilà ce que dit l'armée israélienne. Beyrouth, la capitale, est ciblée, en particulier la périphérie sud de la ville, considérée comme un bastion du Hezbollah et surtout le sud du pays que les habitants quittent par milliers à la hâte. Une habitante que nous avons jointe ce matin témoigne de scènes d'exode, des Libanais qui fuient en famille, à pied, en voiture. Des images montrent d'immenses colonnes de véhicules sur les routes. L'armée israélienne prévient que les frappes au Liban pourraient durer de nombreux jours. Elle a ordonné aux habitants de dizaines de villes d'évacuer au plus vite en prévision de nouvelles frappes.
Et les Libanais parlent ce matin d'un bilan de 31 morts. Donc dans ces frappes menées par Israël, c'est vraiment toute la région qui est concernée. À l'instant, on apprend que la Turquie ferme sa frontière avec l'Iran. Il y a tout un tas de conséquences. Les espaces aériens fermés dans toute la région, pas d'avion Air France, jusqu'à demain au moins. Les navires qui sont priés de se mettre à l'abri. Les cours du pétrole qui s'envolent plus 13% à un moment durant la nuit. L'or, valeur refuge, eh bien, qui s'est encore envolé de son côté également. Combien de temps ça va durer? Question que tout le monde se pose ce matin. Eh bien, Donald Trump, qui est de retour à Washington depuis hier soir, a parlé d'un processus long de 4 semaines.
Les opérations de combat se poursuivent actuellement à plein régime et se poursuivront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. J'exhorte une fois de plus les gardiens de la révolution, l'armée iranienne et la police à déposer les armes et à bénéficier d'une immunité totale sous peine d'une mort certaine.
Également de Donald Trump promet également de venger les 3 soldats américains qui sont morts depuis samedi. Il y a les Européens aussi qui réagissent. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent prêts à mener, je cite, des actions défensives pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Le Royaume-Uni dit même qu'il autorise l'usage de ses bases militaires. Il y en a une qui a été visée par un drone à Chypre. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC. Il y a donc une réunion qui va commencer là dans quelques minutes au Quai d'Orsay, au lendemain d'un deuxième conseil de défense présidé hier soir par Emmanuel Macron.
Oui, le chef de l'État a donné 7 consignes. Rehausser notre posture défensive. Toutes les options doivent être examinées, estime Emmanuel Macron, face à des frappes iraniennes jugées indiscriminées et disproportionnées. Il s'agit d'abord de protéger les forces françaises dans la région. Un hangar sur une base navale a déjà été touché à Abu Dhabi. Mais il s'agit aussi de protéger nos partenaires, les Émirats ou encore le Qatar, et les ressortissants français sur place. Comment les rapatrier ? Une réunion au centre de crise du Quai d'Orsay est prévue ce matin. Emmanuel Macron lui prendra la parole cet après-midi sur la dissuasion nucléaire française depuis la base qui abrite nos sous-marins. Un discours prévu de longue date, mais qui prend une toute autre dimension dans ce contexte qui montre que la puissance et l'indépendance sont indispensables, dit-on à l'Élysée.
Oui, et en cas d'attaque nucléaire, eh bien c'est depuis la base aérienne de Saint-Dizier en Haute-Marne que décolleraient les avions Rafale équipés de missiles nucléaires. La France dispose de 300 têtes nucléaires environ. On a consacré près de 7 milliards d'euros à la dissuasion nucléaire l'année dernière. Écoutez à quoi ressemble cet endroit à Saint-Dizier. C'est très intéressant parce que c'est très rare d'y mettre les pieds. C'est Lou Garnier qui s'y est rendu pour RMC.
Des barbelés, des pistes de décollage, des hangars et une cinquantaine d'avions Rafale prêts à décoller à tout instant chargés de missiles nucléaires sur ordre du président de la République, le colonel Mathieu Ponin-Ballhomme.
La dissuasion nucléaire, c'est l'assurance vie de la nation. C'est faire peur pour ne pas avoir à s'en servir. Elle est là pour que la guerre n'arrive pas. On n'a pas droit à l'erreur. On est prêt à ça.
Être prêt à lancer un missile nucléaire, une énorme responsabilité pour les pilotes. Le lieutenant-colonel Lindsay dirige l'un des 3 escadrons de la base.
C'est à la fois quelque chose de vertigineux, mais pour lequel on se prépare. J'imagine que c'est un peu la même chose qu'un chirurgien qui opère pour la première fois à cœur ouvert.
Alors l'entraînement est intensif, plusieurs vols par semaine pour ces pilotes, avec des missiles factices, dans des rafales qui peuvent voler à 2000 km/h et à seulement 50 mètres du sol.
On arrive à s'entraîner de manière très réaliste avec des scénarios, et évidemment on utilise des avions auxquels on fait jouer le rôle d'ennemi pour nous intercepter et faire des missions de combat le plus réaliste possible.
Depuis 1964, les forces aériennes stratégiques garantissent 24 heures sur 24 leur capacité à agir en cas de menace.
Et alors, hasard ou pas, il y a l'ONG Greenpeace qui bloque depuis très tôt ce matin un cargo dans le port de Dunkerque pour l'empêcher, dit Greenpeace, de décharger sa cargaison, l'accusant de détenir de l'uranium provenant de la Russie, uranium destiné au nucléaire français. Le verdict attendu ce lundi à Paris aux assises spéciales au procès en appel de 4 hommes qui étaient rejugés, notamment pour la campagne de haine qui avait précédé, souvenez-vous, l'assassinat de Samuel Paty en 2001. On en a beaucoup parlé sur RMC. Ce lundi commence le procès de l'ancien patron de la police anti-stupéfiant. Ce sera à Bordeaux, jugé car soupçonné d'avoir favorisé l'importation de drogue en France avec l'aide d'un baron de la drogue, lui aussi jugé. L'affaire remonte à 2015. Elle avait conduit à une réforme de la lutte anti-drogue en France. Constance Bostone du service police-justice à RMC. Cette affaire est même considérée comme le plus gros scandale d'État en la matière.
Oui, tout débute en octobre 2015. 7 tonnes de résine de cannabis sont saisies par les douanes au pied d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Dans cet immeuble, Sofiane Ambly, un trafiquant notoire, est interpellé. Il explique que la drogue saisie fait partie d'une livraison surveillée par l'Office antidrogue et que depuis plusieurs années, il est l'informateur du patron. L'ancien chef des SUP, François Thierry, est alors soupçonné de favoriser l'importation de la marchandise sur le territoire national avec l'aide du trafiquant, sans en informer l'autorité judiciaire. Des accusations qu'il conteste, assurant que les autorités ont toujours été au courant de ces méthodes et que le but était de réaliser des saisies importantes et d'interpeller les commanditaires. Sofiane Ambly explique de son côté qu'il n'a toujours été qu'un logisticien, lui, qui ne sera pas présent à l'audience car il purge une peine de 30 ans de prison au Maroc.
après la pluie et le redoux, eh bien c'est une nouvelle tempête de sable qui va toucher la France là tous ces prochains jours. Elle arrive du Sahara. Vous vous souvenez de celle de 2022 quand tout le monde avait dû nettoyer sa voiture? Eh bien on parle là de la même ampleur avec absolument tout le pays qui sera touché. Et le foot, Marseille revient à deux points du podium grâce à sa victoire 3-2 contre Lyon hier soir. L'Olympico avec un doublé d'Aubameyang dans les 10 dernières minutes qui a permis à l'OM de renverser le match et de l'emporter donc 3-2, score final.
C'était le journal de Quentin Vinet à 8h08, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Et aujourd'hui c'est avec vous Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour
le
Apolline.
Conflit qui s'étend donc un peu partout au Moyen-Orient fait craindre une flambée des prix du pétrole, des conséquences directes évidemment pour nous consommateurs.
Oui, hein, c'est en tout cas ce qu'annoncent plusieurs spécialistes et analystes interrogés sur la question. Le cours du baril de pétrole, le brut, était à $72 vendredi dernier avant le début des frappes. Il a atteint les $80 cette nuit avant de retomber à $76, mais il pourrait monter rapidement à plus de $100, soit un niveau record jamais atteint depuis 2022, date du début du conflit en Ukraine. Il pourrait même bondir à $120 en cas de prolongation de la guerre et d'embrasement régional.
Quelle est la mécanique? C'est-à-dire comment est-ce que l'envolée fonctionne?
Alors tout d'abord, l'Iran dispose des troisièmes réserves mondiales de brut avec 3,1 millions de barils produits par jour, dont la moitié est exportée notamment vers la Chine. Si le conflit se maintient et s'intensifie, il sera compliqué pour le pays de produire et d'exporter vers la Chine, ce qui devrait provoquer un déficit de l'offre et une augmentation du prix sur le marché mondial. Ensuite, question géographique, il y a le détroit d'Ormuz, reliant le golfe Persique à l'océan Indien. Ce passage assure le commerce international entre les riches pays du Moyen-Orient et le reste du monde, avec 20 millions de barils de pétrole passant quotidiennement par ce détroit, soit 20% de la consommation mondiale. Ce détroit est bloqué depuis le début du conflit et va lourdement bouleverser le marché pétrolier.
Est-ce qu'on peut imaginer des conséquences sur les prix? Un peu comme au début de la guerre en Ukraine, et la question aussi de l'inflation.
Exactement. Pour rappel, en 2022, au début de la guerre en Ukraine, le baril était monté à $100 et le prix du litre à la pompe pour les Françaises et Français à 2 euros. On peut imaginer la même chose aujourd'hui. Et si le baril monte à $120, comme le prédisent certains analystes, on pourrait atteindre les 2,20 euros le litre à la pompe, un record historique et absolu. En gros, dans les calculs, dites-vous qu'une augmentation de $20 du prix du baril provoque une augmentation en moyenne d'une vingtaine de centimes du litre à la pompe. Enfin, ce qui va compter, c'est la durée du conflit. Pour l'instant, les stocks sont constitués. La France a l'obligation de conserver l'équivalent de 90 jours d'importation. Mais au-delà, il faudra racheter des barils qui vont augmenter, ce qui impactera forcément les prix, l'inflation et donc les consommateurs.
Merci Pierre. Pierre Rondeau, il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera le spécialiste des conflits Alain Boer, à la fois sur ce qu'il se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, mais aussi sur les orientations, la nouvelle stratégie que devrait annoncer Emmanuel Macron un peu plus tard aujourd'hui dans son discours sur la dissuasion nucléaire. Alain Boer a les toutes premières informations sur le discours d'Emmanuel Macron et ce qu'il faut en attendre. Juste après, ce sera le retour de Nicolas Canteloup, face à Canteloup, en direct à 8h50. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est revenu, Arnaud Demanche.
Et bonjour Apolline. Comme vous êtes jolie, toute de rose poudrée ce matin. Ravi de vous retrouver les amis. Dites donc, c'est fou, je vous laisse une semaine en vacances. Je reviens, c'est la troisième guerre mondiale. Super, je vais quand même essayer de faire des blagues là-dessus. Vous savez que je suis extrêmement exigeant. Pour un humoriste, je suis intransigeant sur les vannes. Dans le métier, on m'appelle l'Ayatollah Comédie.
Non !
Vous avez dit, hein, des vannes de qualité, on attaque très fort. Mais avant de parler de la guerre, un petit tour par l'actualité française, c'est important. Le salon de l'agriculture, c'est fini hier. Il y a eu 30% de visiteurs en moins à cause de l'absence des vaches. Je ne savais pas que les Français aimaient autant les vaches, c'est fou. Que les organisateurs s'emmerdent pas avec les autres stands, en fait. Autant organiser le salon des vaches l'année
voilà.
prochaine. On gagnera du temps. Vous entendez? C'est le son du plaisir.
Ah.
C'est beau, hein? Oh, ça m'excite.
Témoignage.
Pas vous, hein? Pierre Rondeau, un peu, minimum. Et 5 personnes là-bas ont été jugées pour violence devant un stand de nougat. Alors ça, je vous l'avais dit à Noël. Vous vous souvenez? Il y en a marre des arnaques avec les marchands de nougat.
Oui.
Ils font exprès de te couper un morceau trop gros. Après, ils te disent, oh, je vais pas le laisser comme ça. Il va sécher. Je suis obligé de vous le vendre maintenant.
Voilà.
Et tu repars avec 800 grammes de nougat vendu au prix de la truffe. T'arrives chez toi, tu te fais engueuler. Encore? Mais tu viens à peine de réussir à finir finir les 900 grammes de Noël. Oui, mais c'est trop bon. Regarde, j'adore ça. Au bout d'un moment, les gens s'énervent. Ça bastonne dans les allées, c'est normal. C'est normal. Allez, on passe à un sujet plus léger. La guerre.
Voilà.
Les États-Unis et Israël ont donc bombardé l'Iran. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a été éliminé. Ils ont largué plus de 30 bombes sur sa résidence à Ali. Comment ils ont fait pour le trouver, Ali? Eh ben, ils ont demandé à des passants dans les rues. Votre roi, là, Ali machin, c'est bien ici, sa baraque?
Prince Ali, oui, c'est bien lui.
Ok, bah merci du renseignement, peu à volonté. Il avait 86 ans. Est-ce que c'était utile de lui envoyer 10 bombes à plusieurs millions de dollars chacune, alors que, bon, un agent du Mossad caché derrière une porte, ça aurait suffi, tu vois, il aurait fait « Bouh !» Crise cardiaque, gain de temps, gain d'argent, et pour les voisins, c'est beaucoup plus simple.
Gain de temps, gain d'argent, j'aime beaucoup cette logique.
Il y avait le suprême de poulet, maintenant il y a le suprême qui n'est plus là.
Oh non !
Alors, on a mis 24 heures à savoir s'il était mort ou pas, il y avait un doute. Dans la soirée de samedi, le ministre des Affaires étrangères iranien, il a déclaré « Il est vivant pour autant que je sache ». C'est pas hyper rassurant.
Non.
Quand t'appelles l'hôpital pour avoir des nouvelles d'un proche et qu'on te répond « Il est vivant pour autant que je sache », autant aller vérifier dans la chambre quand même. Et tout le week-end, nos antennes ont été mobilisées sur cette actualité. Tout, partout. Même notre radio musicale RMC Gold. Et vous êtes bien sur RMC Gold, et on apprend à l'instant la mort de l'ayatollah iranien. On va lui rendre hommage, on écoute son dernier tube.
Je viens pas de la cité, mais le beat est bon.
Le guide suprême Khamenei est mort.
Ce que j'aime bien, c'est la manière dont ça monte au cerveau.
Ben oui,
ça, ah, de Mathieu.
Bah oui,
Pierre Rondeau l'avait tout de suite.
Il l'a eu tout de suite, il l'a eu tout de suite. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal, cet homme-là, ne serait-ce qu'au rap. Et Donald Trump...
C'est pas gentil.
Non, mais ceci dit, pour le coup, c'était pas mal en plus. Donald Trump a annoncé que les dossiers Epstein avaient malheureusement été détruits lors d'un bombardement iranien. Oh, oh, c'est bête. On les avait pourtant bien rangés sur notre base de Qatar. Oh là là. Tant pis. C'est vrai, c'est dommage. Hein.
Alors, en effet, le régime iranien a riposté en attaquant donc les pays alliés des États-Unis et d'Israël.
Oui, alors j'ai vu, ils ont même envoyé des bombes sur Chypre. Les gars, ils ont fait on y est pour rien. On est Chypre, quoi. Le truc le plus terrifiant qu'ils ont envoyé à un pays étranger, c'est leur candidat à l'Eurovision. Et pas de quoi balancer des missiles. Et puis, bah, Dubaï. Dubaï qui a également été visé, le paradis des influenceuses. Moi, j'ai regardé les lives TikTok de Maeva Genam et Kim Glow. Quand elles essayent d'expliquer la situation à leurs abonnés, c'est pas évident.
Hein. Non.
Salut la commu. Alors, je suis à Dubaï et je vous résume la situation. Alors, en fait, il y a le roi d'Amérique, McDonald Trump, là. Il a décidé de bombarder les Irakiens parce qu'il n'aime pas le régime des Mollahs. Et en fait, tout ça, c'est à cause du conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, en fait. Un conflit parce qu'il a été commis par toute la bande à Gaza, en fait. On ne se rend pas compte. Et là, il y a Tola Kombini, là, le chef en Iran. Il est pote avec le roi des Russes, là, Vladimir Soupline, je ne sais pas quoi. Et il se bagarre avec le PDG de l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est Mohamed Ben Arfa ou je ne sais pas quoi. Et ils sont tous là. Ouais, il y a des avions de chasse. Abu Dhabi, je ne sais pas quoi. Nanani, nanana.
Non.
Alors si vous aussi vous êtes un avion de chasse et que vous êtes à bout d'habits, eh ben rachetez-vous des nouveaux habits en fait.
Oui.
Avec mon code promo Maeva 320. Oh v, putain, encore une explosion. Non, ça va, c'est juste les lèvres à ma coloc qu'elles ont pété.
Merci de nous tenir informés. Courage à eux.
Ah ouais.
Et à demain.
C'est très bonné, moi. Arnaud, qu'on retrouve tous les jours en podcast ou en tournée à Orange, à Avignon, à Montpellier, à Hyères, à Épinal, à Aix-en-Provence. Disons, il y a des nouvelles villes là.
Il y en a plein.
Oh là là, ça n'arrête pas. C'est un spectacle RMC. Il est 8h19. On part à Nice parce que Alain Marchal et les GG, vous êtes sur place à partir de 9h.
Effectivement, nous sommes en direct ici de la Villa Masséna, à quelques encablures, c'est face à la promenade des Anglais. On attend le public lissois à 9h pour être avec nous en direct de 9h à midi, pour commenter l'actualité et parler surtout des élections municipales avec nos confrères de Nice Matin. C'est la guerre entre les frères ennemis, Éric Ciotti, Christian Estrosi, le maire sortant, Éric Ciotti, le challenger, ces deux qui ont fait route politique ensemble au début et qui maintenant sont devenus des adversaires acharnés. Donc on parlera de l'enjeu du scrutin un Niçois. D'autant plus que Nice, c'est la deuxième ville la plus chère de France au niveau de l'immobilier. Est-ce qu'il est encore possible de se loger à Nice dans le centre-ville? Est-ce qu'il est encore possible d'ailleurs de se loger dans les centres-villes d'une manière générale? Et puis on commentera avec les Niçois, avec nos GG, l'actualité, actualité internationale. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du conflit au Proche et Moyen-Orient? La France va renforcer sa capacité défensive. Est-ce que la France doit aller aider ses alliés émiratis et américains? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Nous serons avec Joël Dagosseri, la coach de vie, Charles Consigny, l'avocat, Bruno Poncé, le cheminot, nos confrères de Nice Matin. Nous serons aussi avec une Iranienne qui habite Antibes, qui a défilé pour la liberté. Et elle viendra nous donner son ressenti. Et puis, on terminera en donnant la parole aux Niçois. Voilà le menu de 9h à midi.
Super menu. Et c'est donc à partir de 9h. Merci Alain. Il est 8h21. Dans un instant, le face-à-face. Alain Bauer, le spécialiste des conflits. On va revenir évidemment sur la situation, cette guerre qui s'étend aussi aux autres alliés des États-Unis dans la région. Et puis, Alain Bauer, il a des informations aussi sur ce qu'Emmanuel Macron devrait annoncer cet après-midi. Une nouvelle stratégie de dissuasion nucléaire, les informations donc dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV, il est 8h21.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. On suit évidemment minute par minute les événements en temps réel et on vous informe à chaque instant de chaque nouveau développement. Parallèlement, je voudrais qu'on prenne le temps de comprendre avec vous, Alain Bauer, bonjour.
Bonjour.
Ce qui s'est déjà passé, les premières conséquences et les scénarios des prochaines heures. Une attaque considérable et ambitieuse qui pourrait durer 4 à 5 semaines, voilà les mots de Donald Trump cette nuit. Au moment où l'on se parle, et depuis un quart d'heure maintenant, une réunion de crise a lieu au ministère des Affaires étrangères à Paris pour parler notamment de la sécurité de nos ressortissants sur la zone du conflit. Cet après-midi, Emmanuel Macron prononcera un discours très attendu sur l'île longue, sur la dissuasion nucléaire, et vous allez nous dire dans un instant quelles sont les orientations que pourrait prendre Emmanuel Macron. Mais d'abord, au moment où l'on se parle, et depuis quelques heures maintenant, il y a à nouveau des explosions qui ont été entendues en Israël, à Dubaï, à Doha, à Bahreïn, au Liban. Est-ce qu'on peut dire ce matin que le conflit s'est très largement étendu ?
Oui, il s'est étendu comme il devait s'étendre. C'était d'ailleurs l'essentiel du débat qui existe entre les monarchies du Golfe et le président Trump sur « il ne faut pas attaquer l'Iran, car toute attaque contre l'Iran ne se limitera pas à une opération en Iran. Ce n'est pas le Venezuela, ça ne sera pas l'élimination de la tête qui amènerait non pas un effondrement du régime, mais une modification de la politique du régime. Il y aura une réplique structurelle, centrale. Les gardiens de la Révolution, ce ne sont pas les bolivaristes dégénérés et corrompus, prêts à être achetés ou vendus aux plus offrants. Et il n'y a pas de vice-présidente vénézuélienne prête à jouer le rôle de vice-présidente.
On va revenir évidemment sur la
iranienne.
Question d'ailleurs de qui pour diriger l'Iran. Parlons un instant de cette image qui a été diffusée cette nuit par la télévision iranienne d'un conseil de direction intérimaire avec trois personnages, le président Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire ainsi que Ali Reza Arafi. Ces trois personnages-là, quel est leur pouvoir réel?
Aucun. Le seul qui compte, c'est celui qui les a nommés, Ali Larijani, le successeur désigné par le guide lui-même après la mort de l'ancien président iranien dans un accident d'hélicoptère, et celui qui est apparu en disant « désormais, il y aura un conseil intérimaire qui sera composé d'eux ». En fait, il a désigné son propre conseil électoral. Il a dit « voilà, ceux qui vont m'élire sont ceux-là, ils vont eux-mêmes référer au conseil des gardiens et au conseil des experts, qui sont les deux outils là des ayatollahs. Les ayatollahs ont trois candidat dans leur tête, le fils du guide qui est considéré comme tellement incompétent que et la création d'une sorte de dynastie locale aurait de mauvais éléments. Un troisième qui n'est pas identifié, qui serait un ayatollah en tant que tel, et Ali Larijani, qui ne l'est pas, qui serait pour la première fois un guide, entre guillemets, laïque, et qui est l'homme qui comptait le plus, à tel point de même d'ailleurs que les Américains avaient exigé, lors des négociations d'Oman, qu'ils viennent dire que ces négociations étaient de vraies négociations, alors même que le guide Ali Khamenei expliquait qu'il n'y avait pas de négociations. Donc c'est l'homme le plus important, c'est celui qui est allé voir Vladimir Poutine à Moscou, et c'est celui qui est en contact avec le président américain, quand le président américain appelle vos confrères de The Atlantic en pleine nuit pour dire non, je parle avec les Iraniens, on est en contact, on continue à négocier, c'est avec lui. Il est le seul représentant légitime du pouvoir survivant. Actuellement, les trois autres ne sont que des représentations des illusions.
Ali Larijani, son grade officiel,
président du Conseil suprême de sécurité de la République islamique d'Iran.
Avec évidemment une question qui est que Donald Trump a évoqué également dans la nuit la possibilité de reprendre des négociations. Avec qui ? Des négociations sur quoi ? Et est-ce qu'il y a un préalable pour la reprise de ce dialogue ?
Le préalable à la reprise du dialogue est le même que le préalable qui existait pour finir le dialogue qui avait lieu à Oman et qui a échoué pour des raisons diverses. Un, parce que vous avez d'un côté un spécialiste du poker menteur, Donald Trump, ce que je raconte d'ailleurs dans le livre sur Trump, et un
Trump,
autre,
le pouvoir des mots.
Voilà, et un autre qui sont des spécialistes des échecs menteurs, c'est-à-dire une stratégie à plusieurs coups avec des mouvements dans tous les sens, mais on a un objectif final. Chez Donald Trump, on a un objectif initial, faire un coup et ensuite obtenir un deal. Il l'a redit d'ailleurs la nuit dernière en disant mais à la fin je veux un deal. Et chez les Iraniens, il y a un objectif qui est ne rien lâcher, mais en faisant durer le plus longtemps possible pour qu'à la fin, on ne sache plus très bien où on va.
Et effectivement, voici les mots des uns et des autres. Cette nuit, le ministre des Affaires étrangères iranien dit « Si leur objectif, c'est de changer le régime, alors je le leur dis, c'est mission impossible. » Et du côté de Donald Trump, on a donné un calendrier, 4 à 5 semaines. Il a d'abord dit 4 semaines. Puis, à mes confrères du New York Times, il a évoqué 4 à 5 semaines. Est-ce que c'est réaliste ?
Le débat qui existait entre les Américains, 2 semaines, et les Israéliens, 3 semaines, pour finir ce que la guerre des 12 jours n'avait pas réussi à finaliser, puisque les Américains l'avaient arrêté en cours de route pour entamer le processus de négociation, pensant que les 12 jours suffiraient par la destruction des capacités de production nucléaire de 3 sites sur 4, pas le quatrième qui n'a toujours pas été attaqué, et de l'éventualité de la dilution des 400 kilos d'uranium fortement enrichi, reste sur la table. Et c'est ce que les Iraniens ne peuvent pas accepter, parce que c'est leur garantie de survie. Pourquoi est-ce que l'Iran se défend ? Parce qu'ils ont le choix entre mourir ou se battre. Or, le corps des gardiens de la révolution est tellement imbriqué dans l'économie iranienne, tellement haï par la population iranienne, tellement sûr de finir comme Saddam Hussein et ses amis ou Kadhafi et les siens, qu'ils ne peuvent pas négocier, sauf si on trouvait quelqu'un capable d'opérer une sorte de blanchiment du régime d'une manière...
Personne existe ?
Ali Larijani. Mais les 30 000 morts, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, on ne sait toujours pas d'ailleurs, de la répression précédente amène une telle vague de haine contre le régime qu'il s'est lui-même enfermé dans une impossibilité à une démocratisation stable. Par ailleurs, aucune des monarchies du Golfe ne veut jouer le risque du chaos. Et on a pour l'instant le chaos K.O et le chaos CHAOS, et les deux options sont toutes mauvaises du point de vue des voisins de l'Iran.
La question du rôle, effectivement, des autres monarchies, des voisins, on va y revenir, la question aussi de l'extension du conflit plus largement, la question de ce qui s'est passé aussi cette nuit à l'Irak. Au moment où on se parle, les autres pays autour sont en état d'alerte maximale, on va y revenir, mais je voudrais aussi que l'on essaie de comprendre quelle est la stratégie des Européens. Berlin, Paris et Londres se sont dit hier soir prêts, je cite, à des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité militaire de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. J'imagine que chaque mot dans cette déclaration compte. D'abord, elle est faite conjointement par Berlin, Paris et Londres. Qu'est-ce que ça dit aussi de cette alliance-là et quels sont les buts ? Est-ce que ça veut dire qu'on, d'une certaine manière, on rentre nous aussi dans la guerre ?
Ben vous avez bien compris la contradiction, parce que du défensif offensif, faut juste choisir entre les deux. La communication générale dans cette affaire entre « j'ai pas été prévenu et je suis pas associé, donc je suis pas là ». Communication du président de la République.
Qui a d'abord dit « nous n'avons pas été associés ». Presque, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donc genre, ça ne nous concerne pas, on n'existe pas.
C'était une déception.
C'était de la rancœur.
Oui, une puissance mondiale présente dans le Golfe, ayant des accords militaires, dont un très contraignant avec les Émirats Arabes Unis, en tout cas Abu Dhabi, sur le thème, on n'est pas au courant. Les Italiens pas plus, que leur ministre de la Défense était lui-même bloqué à Dubaï où il était allé en vacances familiales. Et les Italiens n'ont pas été plus prévenus que les autres, ni par les uns, les Israéliens, et encore moins...
C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères italien de la Défense n'avait même pas en tête que potentiellement, c'était peut-être pas le moment d'aller à Dubaï. C'est intéressant. Ça veut dire que le reproche qu'on fait aussi ici en France, un certain nombre d'influenceurs ou qui...
Celle qui crie au secours après avoir dit le plus grand mal de la France.
Qui pleure effectivement, ou les unes ou les autres. Au fond, vous nous dites que le ministre de la Défense italien lui-même était parti en vacances là-bas.
Voilà, récupérer sa famille. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la France peut faire? D'abord, elle a des enjeux de défense avec les Émirats. Si les Émirats font jouer l'accord de défense, la France doit répondre à l'accord de défense des Émirats et protéger les Émirats. La France a été directement touchée dans une base commune, pas seulement où elle n'est pas seule, mais cette base a été touchée et elle peut répliquer. C'est légitime. On entre dans le droit de la guerre ou en tout cas de ce qu'il en reste. Troisièmement, toucher des batteries de missiles iraniens à la source, ça c'est une opération offensive.
C'est effectivement dans la même phrase, et c'est pour ça qu'effectivement chaque mot compte. Dans la même phrase, il y a le mot action défensive, mais il y a aussi tirer des missiles, enfin empêcher l'Iran de tirer des missiles et des drones à leur source.
Voilà, ça veut dire sur
bombarder
place.
Alors la que source
nous
des
interceptons
missiles.
Depuis longtemps, y compris dans la guerre des 12 jours, des missiles iraniens dès lors qu'ils passent au-dessus de pays amis ou qui font appel à nous, ce que les Anglais viennent de faire avec leur tornado sur un missile qui passait au-dessus de l'Irak ou de Chypre, je ne sais plus. Ce que les Anglais peuvent faire parce que leur propre base a été attaquée cette nuit à Chypre, et vous savez que ce sont des bases de territoire britannique, ce ne sont pas des bases chypriotes où il y a des Britanniques, mais des bases britanniques, c'est très particulier. C'est-à-dire ce que Donald Trump voulait obtenir au Groenland comme statut spécifique. Et donc là, il y a des opérations. Attaquer à la source l'Iran est autre chose. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce que cette phrase voulait dire, ni ce que ça sous-estimait en termes de risque. Alors là, particulier pour devenir une cible directe et pas seulement une cible indirect. Quant à l'Allemagne, je pense qu'elle a besoin d'exister, que son réarmement est réel, mais qu'elle n'a aucun intérêt ou quasiment aucun intérêt dans la région.
Alors pourquoi le fait-elle? Pour pouvoir montrer aux Anglais et aux Français qu'elle est avec eux.
Un statut international de niveau global, de type, moi aussi je pourrais être au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a toujours une arrière-pensée quelque part chez le chancelier Merz, comme chez tous les autres chefs d'État.
La question du Liban, la question de Dubaï, Doha, Bahreïn, mais également ce qui va se jouer cet après-midi. Le discours d'Emmanuel Macron a été prévu. Oui. Un discours sur la question de la dissuasion, la stratégie française de la dissuasion nucléaire. Il était prévu, mais évidemment, au regard de ce qui se passe depuis 48 heures, il prend un relief tout particulier. Il va parler de notre dissuasion nucléaire et de la question du partage ou non de cette protection. Vous avez des informations sur les orientations que pourrait annoncer Emmanuel Macron cet après-midi?
Alors, vous me permettrez là de faire précis, comme on fait ça souvent chez vous, mais là, je préfère le lire. D'abord, on modifie un élément central qui est la stricte suffisance de notre parc nucléaire, un peu moins de 300 têtes, à une nouvelle formulation au plus juste niveau.
Ça veut dire qu'il y aura une augmentation du
nombre
d'ogives.
De têtes nucléaires. On en avait environ 300. Les Chinois sont en train de tripler leur parc nucléaire. Les Américains relancent des essais nucléaires. On a un effet de modernisation très engagé sur lequel nous ne sommes pas du tout en retard, notamment de nos missiles issus de sous-marins. Mais la même question va se poser pour la force aérienne stratégique. Le président de la République avait déjà ouvert la voie à Luxeuil il y a quelques semaines. Là, on entre clairement dans une modification de la posture qui est, eh bien non, on arrête de réduire la surface nucléaire. On n'est plus au minimum, on revient à un niveau acceptable, donc augmentation. Il y a un deuxième enjeu qui n'est pas clarifié pour l'instant, on est dans le flou, le brouillard stratégique, qui est-ce qu'on remet en œuvre des armes nucléaires tactiques, dites de théâtre, ou seulement des armes nucléaires stratégiques? L'arme nucléaire
stratégique,
c'est celle dont on ne se sert pas. C'est-à-dire, nous avons une dissuasion, et si vraiment nous sommes attaqués, alors c'est la fin du monde. Et il n'y a rien entre ça et la fin du monde. Nous avions un petit élément intermédiaire qui était l'action préemptive. On est au bord d'une attaque majeure, on lance quand même un petit missile, tout seul, pour dire, attention les gars, on est au bord de la...
Ça nécessite d'avoir une sorte de gradation.
De gradation.
C'est-à-dire mais on avait plus des bombes qui détruisent tout et des bombes intermédiaires?
Non, alors ça c'est pas un niveau de kilotonnage.
D'accord.
C'est un niveau de j'en lance 50 ou 30 ou 20
qu'une.
Ou une. Comme ultime avertissement. cette petite modification de la stratégie avait eu lieu quand on a commencé à éliminer nos armes nucléaires tactiques Pluton et Hadès à l'époque de François Mitterrand. Pour de bonnes raisons, c'est qu'on nucléarisait avec nos voisins, les Allemands, à cause d'un problème de portée. Aujourd'hui, on peut avoir des portées plus longues pour des armes nucléaires tactiques. Les Américains sont eux-mêmes en train de moderniser leur parc nucléaire en Europe, et ils viennent d'envoyer en juillet dernier les premiers éléments de la modernisation d'armes nucléaires tactiques en Europe.
C'est important. Ce que vous nous dites, c'est que cet après-midi, Emmanuel Macron devrait, un, dire qu'on va probablement augmenter le nombre donc de nos notre stock nucléaire, et deux, changer la stratégie pour ouvrir la possibilité d'une sorte de dernier...
Ça existe déjà. La question, c'est, ira-t-il un peu plus loin au vu d'événements qui sont en train de se produire là-dessus? Troisième élément, la dissuasion était historiquement un élément extrêmement précis sur ces l'ultime, quand les valeurs essentielles... Là, c'est la dissuasion et gage d'une liberté d'appréciation de parole et d'action pour la France. C'est-à-dire que ça devient un élément de diplomatie et pas seulement un élément de défense. Et la dissuasion interdit à tout adversaire étatique de miser sur le succès de l'escalade, de l'intimidation ou d'un chantage qui cherche à nous paralyser. On n'est plus dans « nous sommes attaqués par une autre arme nucléaire ou par une arme conventionnelle ». Ça intègre désormais tout ce qui va de la manipulation, la cyberattaque et le reste. Cet élément avait déjà été avancé.
Ça veut dire cyberattaque pourrait avoir réponse nucléaire.
Oui. Alors, ça avait déjà été avancé et par les Russes, et par les Chinois, et par les Américains lors d'une réunion à Paris à l'école militaire il y a 4 ou 5 ans. Mais c'est la première fois que ça entre dans la doctrine officielle ou dans la supposée doctrine officielle de la France. Et enfin, évidemment, la dissuasion est défensive, mais elle s'octroie le droit de frapper en premier avec une arme nucléaire en appliquant une stratégie d'avertissement nucléaire, ce qui est
le fait de frapper les premiers
d'alerte.
Et ce sera donc prononcé par Emmanuel Macron
enfin,
cette
sur le continent européen. Nous revenons à la politique voulue par le général de Gaulle qui, dès le début du commencement de notre système de dissuasion, a toujours indiqué qu'elle n'était pas limitée aux frontières de la France, qu'elle devait intégrer ses voisins immédiats. Alors, à l'époque, c'était la Belgique, les Pays-Bas et quelques autres. Et là, on est dans une logique où la France pourrait devenir le garant européen de sécurité nucléaire de l'Union européenne au sens large, sachant qu'il faut faire attention, quelques pays de l'Union ont signé le traité de non-prolifération et donc sont dans une situation un peu plus compliquée que les autres qui sont prêts à avoir une arme nucléaire, à profiter du parapluie
français
de manière ouverte. Donc il y a des petits ajustements qui devront être faits, mais la France là deviendrait le parent de cela, alors même que d'autres pays, dont l'Allemagne, se demandent si elle ne devrait pas disposer de leur propre armement nucléaire, considérant qu'en termes de souveraineté, la France ne partagera jamais la décision.
Ce qui serait effectivement un bouleversement, ce dont vous parlez là, évidemment, c'est d'élargir la protection, mais non pas la décision, c'est-à-dire de ne pas partager le fait d'appuyer sur le bouton.
Cette question-là
Alain Bauer,
n'a jamais été évoquée.
Question aussi sur la capacité des Américains, des Israéliens, de l'Iran à tenir. Lorsque Donald Trump dit cette nuit 4 à 5 semaines, lorsque l'on voit qu'il y a déjà effectivement 9 victimes en Israël, qu'au moment où l'on se parle, les sirènes ont encore retenti depuis l'aube, à 7h, à 7h38, est-ce que Israël dispose de suffisamment de missiles, anti-missiles? Est-ce que le fameux dôme de fer est encore suffisamment efficace? Est-ce qu'il peut tenir 4 à 5 semaines?
Alors, pour l'instant, la réponse est oui. D'autant que l'outil qui avait percé le dôme de fer la dernière fois, avec 9 missiles qui étaient des Koramshar 3 améliorés, semble avoir été... l'équipement semble avoir été détruit par le raid de B2, dont on se demandait ce qu'ils avaient bien voulu bombarder, puisqu'ils n'ont pas attaqué le quatrième site nucléaire iranien. Il semble que ça soit l'usine qui fabriquait le Koramshar 4, dont les Iraniens ont eu la gentillesse d'en faire la démonstration le 7 février dernier en donnant quasiment la localisation. Donc il semble que l'élément le plus puissant qui avait permis, y compris, d'approcher la base de F-35 israélien de Dimona et la base nucléaire de Dimona ne soit plus opérationnelle. Je dis ça sous toute réserve parce que tout le monde est très étonné qu'il ne soit pas encore sorti. Mais il reste beaucoup de missiles, de moins en moins de lanceurs de missiles, ce qui réduit la capacité à les envoyer. Et il reste quand même beaucoup de chaïds, c'est-à-dire des drones, dont l'usage a été quasiment parcimonieux par les Iraniens. Enfin, l'efficacité du double système américain Glaive avec le Lincoln et pardon oui glaive avec le Lincoln, bouclier avec le Gerald Ford a permis quand même d'éliminer plus de 90% des drones. Beaucoup des explosions qu'on entend sont des explosions parce que les drones et les missiles sont détruits en plein vol et qu'il y a des débris qui tombent ici ou là. Il y a eu un seul désastre en Israël, là où il y a eu les 9 morts, mais pour l'instant le reste est plutôt particulièrement efficace en termes de défense antimissile. La vraie question qui nous reste, c'est ce que vont faire les Chinois, dont personne ne parle. C'est un des sujets, comme vous le savez, que j'aborde beaucoup dans un autre sujet qui est le retour de la Chine comme superpuissance. Et il se trouve que les Chinois ont envoyé un groupe naval, dans le Golfe, à proximité, avec un bâtiment de renseignement, qu'ils ont fourni 2000 tonnes de chlorate de potassium pour fournir les moyens de lancer des missiles, qu'ils ont envoyé des équipements antimissiles et des équipements de radar en Iran et qu'ils sont très fortement engagés, y compris à un point dont on se demandait jusqu'où il irait. Et cette question n'est pas encore résolue, car il y a une fenêtre d'opportunité chinoise sur Taïwan qui est en train de s'ouvrir, car si les Américains ont de quoi tenir 4 semaines en munitions et en équipement, contrairement à ce que beaucoup de mes collègues disent, parce qu'ils s'y sont préparés, qu'ils ont doublé les chaînes de production et qu'ils sont en situation, ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de gérer 2 théâtre d'opération
à la fois,
en même temps.
Et c'est évidemment la question si d'autres voulaient en profiter. Merci Alain Bauer d'avoir fait le point avec nous. Et d'ailleurs, vous évoquez la Chine. Votre dernier livre, ça s'appelle Chine, la revanche de l'Empire. C'est chez Fayard. L'édition spéciale continue bien sûr sur BFM TV. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Alain Bauer était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Alain Bauer.
Ah, bonjour.
Nous avons évidemment parlé d'Iran. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Oh. Hey, bonjour. Hey. Ben allez, c'est la guerre, je remets les lunettes de Top Gun. Ça a bien marché la dernière fois, vous souvenez, hein? Waouh, ben, c'est mon look warrior, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, un avion de chasse. Mais non, c'est vous, Apolline. Ça fait plaisir, un petit compliment comme ça.
Oui, bon, allez, hein? Monsieur le Président, un peu de sérieux tout de même, c'est la guerre.
Oui, pardon, vous avez raison, revenons. Redevenons sérieux, il y a Alain Bauer face à nous. À ce sujet, j'ai décidé de mobiliser en urgence tous les réservistes. De la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air. Comme Monsieur Bauer, qui est colonel de réserve de l'armée de l'air, il faut le savoir. Même si c'est vrai que quand on l'entend parler sur tous les plateaux, la réserve, c'est pas trop son truc. Hein. Bref, les réservistes mobilisés auront pour mission de sécuriser les sites stratégiques français les plus importants, c'est-à-dire les ronds-points.
Les ronds-points, c'est-à-dire comment ça, l'armée va sécuriser les ronds-points?
Bah écoutez, vu comme ça pète de partout au Moyen-Orient, demain on va se retrouver avec le litre d'essence à 5 euros. Ah. Hein, et puis la suite, on la connaît, c'est le retour des gilets jaunes sur les ronds-points, les banderoles, Macron démission. Donc, je pensais avoir faire une dernière année sympa, mais là, Trump est en train de tout me saloper. Hein. Quoique, finalement, l'international, c'est quand même le truc où je brille le plus. Hein, l'avion de chasse.
Eh bien, merci, monsieur le président. Alain Bauer, justement, vous souhaitiez ajouter quelque chose au sujet de l'Iran?
Écoutez, je souhaitais simplement rappeler que ce que fait Donald Trump était totalement prévisible. Et à ce propos, je ne comprends pas que tous les experts se soient fourvoyés à ce point. Et d'ailleurs, je l'explique dans mon prochain livre, tous des cons sauf moi.
Non mais vous avez quand même dit il y a quelques semaines que vous pensiez que Donald Trump n'attaquerait pas forcément l'Iran parce qu'il n'y avait rien à y gagner.
Ah mais Trump n'a pas attaqué l'Iran.
Ah.
Trump a juste frappé.
Ah oui,
ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je l'expliquerai dans mon deuxième prochain livre qui s'intitule « Comment avoir réponse à tout pour les nuls ».
Eh bien, merci Alain Bauer. Ce matin, Pascal Praud est avec nous pour les titres. Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour Apolline et surtout bonjour Alain Bauer, toujours souriant. C'est vrai que dès que ça pète dans le monde et il a la moustache qui frise en pensant au 78e livre qu'il va sortir. Alain Bauer, spécialiste comme nous à CNews du monde arabe. Enfin, nous sommes spécialistes des Arabes au sens large. Je dois vous avouer que j'ai passé un excellent week-end, cher Apolline, cher Alain. Les frappes sur l'Iran, plus le régime des mollahs qui riposte en attaque.
pas contre tous les autres pays du Golfe. Ça m'a fait un bien fou. Les Arabes se font la guerre entre eux. Mais c'est formidable. Quelle semaine qui s'annonce. Allez, c'est parti pour les titres. Après que Dubaï ait frappé les représailles. Pardon, après que Dubaï. Pardon, Dubaï a été frappé. Oui, tout à fait. Après que Dubaï ait été frappé par la représailles iranienne, la France a fait savoir qu'elle était prête à rapatrier tous ses ressortissants, sauf bien sûr les influenceuses. L'Iran a donc confirmé la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Une victoire pour Donald Trump qui aurait chanté Khamenei, la coupe à la maison. Allez les gars, c'est facile.
Merci beaucoup, merci Pascal Pro. Donald Trump a donc attaqué l'Iran et il est avec nous ce matin pour en parler.
Hey, bonjour Pauline de Malherbe, Chine de Malherbe. J'ai gagné. C'est moi, j'ai éliminé l'ayatollah Khomeini. J'étais obligé d'employer la force parce que les Iraniens, ils savent pas négocier avec moi. Et aucun effort, et pas pour proposer de m'offrir un avion présidentiel gold, pas proposer de terrain pour construire un club de striptease à Téhéran, même pas une petite Stormy Daniel locale.
Ah oui, bon, ils savent pas y faire avec vous, dis donc.
Mais c'est pas ma faute, c'est l'affaire Epstein. Et comme on en parlait trop, il fallait attaquer l'Iran pour faire diversion, tu vois. Comme j'avais déjà fait avec Maduro, Venezuela ou avec le Groenland. Alors voilà, maintenant, vous le savez, si vous voulez la paix dans le monde, c'est simple. Arrêtez de parler du dossier Epstein.
Merci, monsieur Trump. Une des conséquences totalement inattendues de cette guerre, c'est Vincent Moscato, hein, qui passe justement ses vacances à Dubaï et qui se retrouve coincé là-bas. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le super Moscato Show.
Coincé, faut le dire vite, Apolline, faut le dire vite. Quand t'es coincé au boulot, oui, t'es coincé, mais quand t'es au bord de la piscine, j'appelle pas ça coincé, tu vois. Je te raconte, j'étais au bord de la pistache, tu vois, tranquille, façon séducteur, tu vois, avec le maillot léopard classique. Puis j'entends que ça pétarade, je me suis dit, bon, c'est nous Bayotte, tu sais, ils sont bling-bling, ils font des feux d'artifice tous les jours pour un oui, pour un autre, tu vois. Puis même si je me disais, c'est en plein jour, c'est comme faire un feu d'artifice en plein jour, toi, que dalle, quoi. Puis là, tout d'un coup, je vois quoi? Toutes les gonzesses, tu vois, toutes les gonzesses, genre influenceuses, tu vois, qui tournaient des vidéos pour la pistoche, qui lâchent leur perche à selfie, tu vois. Ils se barrent en courant à l'intérieur de l'hôtel, façon panique. Il manquait que la musique de Bénil, tu vois. Et là, je vois un truc qui arrive sur moi. J'étais en train d'être tranquille, donc je lève ma carcasse, je vois très vite le truc, je l'attrape, le truc, je réflexe de rugbyman, tu vois. Je fais drop direct, tu vois, rabois en deux, tu vois. Le bordel, il se plante à 200 mètres de là, tu vois, il explose, il fait un gros boom, sur une île, rasée, les palmiers, plus d'arbres que dalle. Ouais, alors, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, Monsieur Moscato, comment faire ça? Parce qu'apparemment, c'était un missile iranien. C'est pas passé loin, Pauline, t'imagines, il me dit comme moi. Et qui c'est qui me remplace pour le super Moscato Show? Antoine Dupont, tu vois le truc, bienvenue au super Dupont Show.
Ah oui.
Dupont Show, putain, c'est bien pour une radio péruvienne, pas pour rien, monsieur.
Parce qu'il est prudent quand même, hein, Vincent. Hein.
Ah ben là, je ne sors plus l'hôtel.
Ah oui.
J'ai consulté Alain Bauer, il m'a dit au téléphone, il m'a dit je ne sors plus l'hôtel. Je fais mon émission, tu vois, quand même, à distance, tu vois, tranquille, confiné à ma chambre, il m'a dit des conditions difficiles.
Vous venez d'entendre une détonation là, Vincent, ça va?
Non, ne t'inquiète pas, c'est juste au room service qui vient de déboucher un McDonald's champagne pour le petit déj. Ah, la guerre comme la guerre.
Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à Alain Boyer d'avoir joué le jeu avec nous ce matin. Dans un instant, les GG en direct de Nice, Alain.
Les grandes gueules en direct de Nice tout à l'heure, de 9h à midi. Attention, élection municipale. Nous serons à la Villa Massina en direct et en public avant le grand débat du soir, bien sûr, sur BFM TV et BFM Nice. Nous y serons à Nice en direct et en public avec Charles Consigny, l'avocat, Joël Dagosséry, la coach de vie, et le cheminot Bruno Poncet. Amis niçois, mes chers compatriotes, je compte sur vous.